Que vous soyez dans un stade, un petit bar de région, dans un party de cuisine, sur une terrasse, aux célébrations de la fierté, que vous soyez à votre comptoir à soupe pot préféré ou au resto indien du coin, dans un bar à nouilles, un bar sportif ou un bar à salsa, on lève notre Molson en votre nom. Export, Ultra, Excel, Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool.
Trace de Break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération.
Bienvenue à Trace de Break et on va le dire tout de suite pour les gens qui nous regardent et qui ne nous écoutent pas juste en audio. Dans le thème d'ouverture où il y a plein d'images ça, de chars et ainsi de suite, il y en a plusieurs qui mettent en vedette, entre autres notre prochain invité, Simon Dion, vient avec nous autres. Salut Simon!
Salut les gars!
T'es officiellement, je pense, celui qui vient du plus loin, qui a fait le plus de kilomètres pour venir nous voir, je pense. Saint-Joseph de Kamouraska.
Saint-Joseph de Kamouraska. Tu comptes pas l'animateur, t'as bien raison.
C'est vrai, d'après moi, tu viens de
Tu commences à faire partie des meubles de part, c'est pour ça qu'on t'a pas calculé dans le tas.
Les conséquences humaines.
Toi, c'est combien de kilomètres aller-retour pour venir ici enregistrer?
Ben, on va dire comme barrette, moi, c'est...
Trois bières!
C'est bien loin ton chalet, trois bières et demie, quand il y a bien du trafic.
Bon, on n'aura pas vraie réponse, j'ai bien l'impression. Oui, non? Pas
quatre,
vrai.
4h30.
Ah, OK. Donc, 9h total.
À 160.
9h total.
Ouais, c'est ça.
OK, 9h, toi, ça prend combien de temps, Simon?
3h30 à peu près, c'est pas si pire.
OK.
C'est pas si mal.
Bon, comment on s'y prend? On fait la nomenclature un peu de le pedigree de Simon?
Ben, on peut y aller tout de suite et se le dire. Là, Pat, Simon puis moi, on est trois chums puis on se connaît, ça fait longtemps. J'ai d'ailleurs présenté.
Ben, en fait, moi, je connais Simon à cause de toi.
Exactement. OK. En fait, ça.
OK.
Fait que Simon, c'est un grand chum que ça date de très longtemps.
Ouais.
On a beaucoup de points communs. Parce qu'en tant que tel, les deux, on vient, entre parenthèses, d'un endroit plus reculé pour le sport automobile. Moi, je suis originaire de Québec, puis Simon de Kamouraska. Ce qui fait qu'en sport automobile, ben, il n'y a rien qui se passait à Québec, puis les environs, donc il fallait s'exiler. Fait que moi, si je le dis d'avance, puis je l'ai souvent dit dans des podcasts comme invité, mais tu es un des gars que j'admire le plus dans le monde du sport automobile.
Merci.
Parce que tu avais toutes les raisons pour que ça soit difficile, puis tu as fait ta place, puis tu n'as jamais arrêté, puis tu es de loin un des gars les plus travaillants que je connais. Fait qu'en ouverture, je veux dire, très heureux.
Arrêtez les éloges.
Quand même. De fête, puis il broye.
C'est bon! J'ai un bouquet de fleurs pour toi, Simon.
C'est gentil, les gars.
Chocolat.
Oh, j'ai bien fait de venir.
Mais vous autres, est-ce que Carl et toi, Simon, vous êtes connus sur la piste?
Ouais, mais juste le moment qu'on s'est rencontrés la première fois, c'était assez cocasse, pareil.
Raconte-donc, ouais, Simon.
Ben, parce que, écoute, ça date. Ben, moi, je suis pas moins que les années, par exemple.
Pas grave.
Je te dirais, c'est quoi?
2002-ish, dans ce coin-là.
Quelque chose comme ça.
OK.
Ben moi, dans le fond, je voulais aller passer ma licence pour être pilote de course.
OK.
Dans ma vie, c'était ça mon but. Je voulais être pilote de course. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment ça que je voulais faire depuis longtemps. Puis là, je regardais un peu les avenues, puis il y en avait quelques-unes, dont aller suivre un cours de pilotage au circuit Sainte-Croix.
Ouais.
Ça, c'est dans le coin de Québec?
Dans le coin de Binière. Qui...
Oui, exactement.
Ouais. Okay.
Mais écoute, à ce moment-là, c'était pas un cours de pilotage très, très complet, dans le fond. Là. C'était une journée qui nous donnait accès d'avoir notre licence de compétition. Fait quand que je me suis présenté là, notre ami Carl était là, justement. Puis, écoute, on va le replacer un peu. C'est
ouais,
mieux comme ça.
C'était des petites notes.
Ah bon, parfait, excellent. Fait que, ben c'est ça, écoute, on est arrivé au circuit Sainte-Croix. On avait une journée pour apprendre à piloter, mais écoute, Carl avait beaucoup plus de notions que moi à l'époque. Moi, j'avais pratiquement pas fait de pilotage encore rendu là. Puis, écoute, après hey, ça n'a pas duré longtemps le cours. Je vais dire, on avait payé, mais ça valait pas si cher que ça, disons, ce cours-là. Écoute, on a roulé l'avant-midi, les notions vraiment de base, point de freinage, apex, sortie de virage. Puis là, rendu, je pense, à une heure et demie, les gars nous ont dit, « Ah, écoutez, les gars, c'est bien correct, on va vous donner votre licence, vous savez conduire. » Puis mais moi, j'étais comme resté sur mon appétit, je voulais en apprendre plus. Puis ils nous ont dit, « Écoutez, là, on a roulé le circuit jusqu'à 5 heures. » Fait que si vous voulez rester ici jusqu'à 5 heures puis rouler, allez-y. Il y avait une couple d'autres gars avec nous autres, on n'était pas beaucoup, c'était une petite journée, mais Carl puis moi, on a décidé qu'on restait sur la piste.
OK. Fait qu'on là, vous aviez quoi, les autos encore de l'école ou
non,
vos propres autos?
Non, c'était même pas des autos de l'école. Et moi, j'avais un Acura Integra.
Moi, j'avais un Mustang GT complètement en stock. Là. C'était, dans le fond, ça prenait juste une auto parce que moi, dans mon cas, j'avais déjà eu une licence puis je l'avais pas renouvelée. Fait qu'il fallait que je sois là pour avoir droit à avoir ma licence. Je me suis pas cassé le bicycle, j'ai pris mon char de rue puis on descend.
Puis on a continué de rouler.
OK.
Puis ça a été assez drôle. À la fin de journée, ça commençait à être corsé pas mal parce qu'on est deux gars assez compétitifs pareil. Hein? Fait qu'on commençait à avoir bien du plaisir sur la piste, puis on commençait à se dépasser, puis on pratiquait nos dépassements, puis situation de course un peu. Puis à la fin, ben, je peux même laisser Carl finir de le raconter, mais à la fin, ça a fini assez violemment pareil.
Simon, il a vu une vision de ma voiture qu'on monte pas d'habitude à personne. Okay. Puis dans les faits, les mags sur mon auto, c'était pas les mags d'origine, puis le cœur était un peu trop serré, ce qui fait que mon mécano, quand il avait vissé mes roues, le torque des roues avait l'air correct, mais dans les faits, était pris par le cœur, puis n'était pas vissé au fond.
Okay.
Fait que mes bottes sont enlevées, mais nous autres, on avait bien trop de fun à niaiser pour vérifier le torque de nos roues.
Ouais.
Fait que je me suis retrouvé probablement le dernier tour à le faire, qu'il n'y avait plus de vis, mais que ma roue, elle tenait. À... Fait que, ouais. Fait que ma roue, on est arrivé à Sainte-Croix, tu as le banking, tu as une bonne ligne droite où est-ce que tu peux rouler. Puis après ça, tu as une espèce de petit boss S en semi de verre. Quand j'ai touché au frein, la roue arrière gauche a sorti, mais au lieu de juste sortir, est restée dans le quarter panel, ce qui fait que je me suis envolé au-dessus des S. Fait que Simon, il a vu ma tank à gaz, mon dessous de char, mon drive shaft.
J'ai vu les exhausts au complet de la Mustang, l'auto de même, puis j'étais dans le bumper en arrière. Là.
Oh, OK.
Donc là, je me tasse, je débarque l'auto. Je vais voir Carl. Carl a débarqué assez rapidement aussi de l'auto.
Alors, ben,
regarde
moi,
ça.
J'ai vu le nez de l'auto qui l'a touché avant à gauche quand j'ai atterri. L'auto a tourné naturellement vers la gauche, ce qui veut dire que l'axle au complet, qu'il n'y a plus de roue, a tapé à terre. L'auto a relevé dans les airs par tourner.
Dans le vibreur. L'axle a piqué dans le vibreur. Ouais,
ça a cogné. Là,
ça pas de cage, pas rien.
Non, pas de cage. Mais tu sais, nous autres, on est deux gars pas nerveux. Fait que je débarque, je regarde Simon. Simon, il rit, moi, je ris. Puis là, les deux, on ramasse les morceaux. Puis là, il y a l'instructeur chef avec qui je m'entendais pas tant bien nécessairement, qui était pas facile. Puis là, il arrive, puis il fait « Ouais, c'est ça, t'as freiné avant le banking, puis là, t'as perdu le contrôle en dérapage. » Simon, comme « Non, l'auto a jamais touché à la piste. »
C'est la roue qui a décidé que ça allait.
Wow.
Mais elle avait pas de l'air maganée, l'auto. Mais quand t'as regardé comme une fille, tu voyais que le toit était corqué. Fait que ça, c'est jamais bon signe. Quand il y a une corque dans le toit, d'habitude, là,
c'est
signe que ça travaillait à quelque part d'autre.
Disons, et le plus drôle, la personne qui gérait pour donner licence, t'sais, Simon puis moi, on ramasse les morceaux de mon char. Puis là, je dis, crime, si les autres veulent laper tantôt, bon, on va se dépêcher à toute sacrée cochonnerie dans le coffre pour
nettoyer.
Pour la tasser. Puis là, il me regarde, puis il se met à me crier après, « T'as pas l'air nerveux! » Ben, il a pas l'air nerveux, si tu veux que je fasse de plus. Le char, il est scrap, si tu veux que je te dise, j'ai pas besoin d'être nerveux, là. Puis tu t'en vas pas faire de la course si t'es nerveux à cause d'un accrochage sans blessure. Mais tout de suite, ça avait cliqué, là. Les deux, on avait déjà du fun ensemble.
Ça a été notre première rencontre.
Ah, quand même, ça devait être plus dur sans retourner à la maison après ça, Carl.
Ça a pas de temps bien été, je dirais.
C'était ton Mustang perso?
Ouais, c'était mon char de rue qui était scrap. Ouais. Fallait que je rachète un char, mais je pense que c'est toi qui avais ton trailer avec un winch. On avait essayé de mettre l'auto sur le trailer, puis l'espèce de treuil avait pété en plus.
Ah, ben.
c'était pas chic. La fin de journée était assez, assez mouvementée.
Mais on a ri comme des malades, puis quand on se revoyait après, on était juste à se voir, on était crampés. Ah,
c'est bien.
Ouais. Et toi, à ce moment-là, tu faisais-tu de la course pro ou pas partout?
Moi, j'avais fait
À ce moment-là, pas de la mécanique pro encore.
Hein? C'est moi qui avais installé les roues.
Là, j'avais fait une saison de laps, parce que j'avais tout gagné puis ça allait bien. Après ça, j'avais été à Jim Russell. Puis là, je m'étais rendu compte que j'avais pas les moyens de rouler en formule. Puis là, après ça, j'ai fait des excursions en rallye puis en paquet d'autres disciplines. Puis je revenais au circuit routier. J'allais conduire un Porsche 944 Turbo cette année-là. Donc, c'était mon retour au circuit. Puis Simon, lui, c'était l'arrivée du jeune coq plein d'adrénaline. Fait que on avait vraiment un fun noir. Là.
Fait que là, toi, t'as fait quoi après, une fois que t'as eu ta licence?
Dans le fond, là, j'ai eu ma licence. Mais écoute, c'est sûr que la course, c'est une question d'argent. Fait que là, cette année-là, j'avais l'argent pour obtenir ma licence. Mais après, dans le fond, moi, j'avais regardé... ça faisait longtemps que je regardais ça depuis le secondaire. T'sais, je parlais avec mes amis à l'école. Puis, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire de la course. Fait que là, je regardais les avenues. Là, j'avais vu qu'il y avait ce cours-là qui était disponible. Puis dans le temps, c'était début des années 2000, l'Internet commençait. Fait que là, j'avais été voir, il y avait l'école à Bowmansville, à Mossport.
Oui, l'école de Spenard David dans le temps.
Ça, c'était à Shannonville. Spenard David, c'était à Shannonville. Il y avait le Bridgestone Racing Academy à Mossport. Là, j'avais fait venir le dépliant chez nous. J'ai regardé le dépliant, je voulais aller là, mais là, c'était loin, c'est dans le coin de Toronto. Là, j'ai dit, tu peux pas faire ça. Là, j'avais entendu parler d'une école à Mont-Tremblant qui avait déménagé à Saint-Eustache qui s'appelait Autosport Basi.
Okay. Qui était anciennement Jim Russell. Moi, j'avais fait Jim Russell en 94 dans le
Exactement.
Temps.
Puis l'avenue qui était intéressante avec Basi dans ce temps-là, c'est qu'on pouvait aller travailler pour l'école à titre de mécanicien, puis de participer après ça, avoir des cours de pilotage, puis de participer au championnat de Formule 2000 de fin de saison.
Mais là, Carl, toi, tu peux pas aller là à titre de mécanicien après avoir vu tes pneus.
Non, mais moi, je l'avais fait exactement ce programme-là, je l'avais fait à Tremblant. J'avais fait 8-9 mois-là comme mécanicien, que tu travailles gratuit. Tu
c'est comme commun, parce que Richard Spenard nous disait ça, qu'il avait reçu Jacques Villeneuve comme mécanicien là-bas, mais qui n'était pas bon mécanique. Il avait peinturé le mur, puis tu sais, c'est un peu tout le monde qui a le même parcours, si je comprends.
Ben, tu sais, si tu venais pas d'une famille fortunée, c'était pas mal ton way-in. Tu n'avais pas vraiment le choix de faire ça, puis... Autant Simon que moi, on venait pas de famille qui nous signait des chèques. Là, mais moi, ma 3, 4, 5e année de course, ma mère a fait des sandwichs. Ça a été ma commandite parentale. Puis Simon, c'était la même chose. Là. Tu venais pas d'une famille qui pouvait t'aider. Là.
Non, mais exactement. Puis je regardais un peu les avenues, qu'est-ce qui était possible. Puis c'est pour ça que j'avais choisi cette école-là. Mais moi, avant ça, j'avais fait un peu de course. J'avais acheté un auto à 100$ quand j'ai commencé. J'avais acheté un Pontiac Firebird. 1988, 2.8 manuel. Écoute, j'avais commencé, il y avait une classe qui s'appelait Kamikaze dans ce temps-là, à l'autodrome Montmagny. J'avais fait une coupe de course
dans
au début.
Dans le temps que c'était en terre battue ou
non,
en asphalte? C'est le début d'asphalte.
Et on parle du début des années 2000 peut-être, mais écoute, j'avais fait 2-3 courses de ce côté-là. Après
mais tu sais que pour 50$, tu aurais pu avoir une Mustang avec le toit corké, mais...
mais là, je savais pas si les roues allaient être bien serrées, mais j'ai pas de chance.
Excuse-moi,
écoute, j'ai commencé de ce côté-là. Après ça, j'ai fait un peu de course sur glace aussi. J'avais acheté un Honda Prelude, encore une fois, que j'avais pas payé cher. J'avais bricolé avec mes chums. Écoute, j'ai toujours été inspiré par mes amis. Je me tenais souvent avec des gens plus vieux que moi. Mais mes chums avaient des Camaro, des Mustangs à l'époque. Fait qu'écoute, ça m'inspirait, puis ça me donnait le goût d'apprendre à conduire encore plus. Fait qu'au début, j'ai commencé vraiment modestement. Après ça, j'ai commencé à faire des cours de pilotage justement pour courser sur circuit. Puis là, quand je suis vraiment allé du côté de Basie à Saint-Eustache, là, écoute, moi, je suis arrivé au paradis. Là. Quand je suis arrivé à Saint-Eustache, moi, c'était le paradis dans ma vie. Là, je travaillais dans une équipe de course. J'avais des cours de pilotage. J'ai rencontré à ce moment-là, écoute, je m'en rappelle, j'ai rencontré Eric Côté, que tu connais,
oui,
Eric aussi.
Oui, tout un chef mécano. Là.
Qui est tout qu'un préparateur. Ouais. Puis Eric m'avait même accueilli à un moment donné. Il voyait, j'avais pas beaucoup d'argent. J'essayais de faire ce que je pouvais. Eric, il dit, écoute, il dit, viens rester chez nous. Je vais te donner un coup de main. J'avais été resté chez Eric. Je travaillais le soir dans le garage avec lui chez Key Motorsport dans le temps.
Fait que tu faisais Basi de jour puis Key Motorsport de soir.
Ben écoute, ouais, j'ai travaillé quand même pas mal avec Eric dans le garage aussi. Moi, je préparais les voitures aussi pour le lendemain parce que, j'ai aussi une passion pour la mécanique. Fait que ça l'aide, par exemple. Ça va te dire que ça donne un coup de main. Là. J'adore le pilotage, mais j'étais un gars qui adore les voitures, qui adore la mécanique aussi. Fait que j'ai mis bien des heures. Puis c'est vraiment un monde de contact. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré bien des gens. T'sais, cet été-là, j'ai rencontré Jacques Deshaies aussi. Puis Jacques m'a donné un coup de main. J'y en dois toute une aussi à Jacques parce que tout le monde du journaliste automobile que j'ai rentré plus tard un petit peu dedans, c'est grâce à Jacques aussi. Fait que j'ai rencontré là cet été-là. J'ai coursé la première fois aussi de ma vie. Ma première course de circuit routier que j'ai faite à vie, c'est cet été-là aussi au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis James Bessemer, qui était l'espèce de chef instructeur à Basie, il me disait, écoute, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas commencer à Trois-Rivières, il y a des murs tout le tour. Dans ce temps-là, YouTube puis les inboards, ça n'existait pas trop. Là, fait que moi, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. Moi, je m'en allais courser au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que j'ai dit, non, j'ai dit, moi, je m'en vais là, puis c'est là que je course. Puis on était supposé courser avec une voiture. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Carl, mais il y avait des. C'est un espèce de petit prototype. L'école avait acheté ça.
Oui.
Les Spec World Racer.
Je t'ai vu rouler à Saint-Eustache là-dedans.
Ouais, ça roulait vite, ces autos-là. Ouais. C'était un petit prototype avec un moteur de Formule Atlantique. C'était hyper rapide, mais la voiture n'était pas encore acceptée par la Fédération Auto-Québec. Okay. Parce qu'on roulait avec des Porsche, on roulait avec des Corvettes.
Mais c'est monoplace ou quoi?
Ouais, c'est monoplace. Puis c'était vraiment rapide.
Imagine un mini sport prototype avec une mécanique d'Atlantique. C'était de toute beauté, la machine.
Non, puis c'était le fun à conduire, puis c'était vite, là, avec des petits slicks en dessous de ça. C'était une belle petite voiture, mais sauf que la voiture n'avait pas été homologuée pour courser contre, disons, dans ce temps-là, c'était le championnat GT. Ouais. Fait qu'on coursait avec des Corvettes, des Porsche, avec des Mercedes, des BM. Puis deux semaines, même pas, je pense 10 jours avant le Grand Prix de Trois-Rivières, nous, c'était supposé, dans le fond, qu'on coursait. Là, j'avais rencontré Jacques était président du Grand Prix, puis on était supposé faire équipe. Moi, j'avais comme donné un coup de main à Jacques à l'école, puis Jacques m'avait dit « Ah, écoute, on va faire équipe au Grand Prix de Trois-Rivières, tu vas conduire avec moi une course à relais, c'est la Coupe du Maire dans ce temps-là. » Puis 10 jours avant le Grand Prix, ils nous ont dit « Ah, les gars, vous pouvez pas prendre cette voiture-là pour courser. Finalement, c'est trop dangereux. Vous pouvez pas courser à travers des voitures sedan avec un prototype. » Fait que là, je me rappelle, Jacques m'avait appelé le soir. « Ouais, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On a plus d'auto. » Puis là, j'ai dit « Attends un peu, Jacques. » J'ai dit « Moi, j'ai fait de la course à la glace. T'sais, j'en ai une auto dans le garage chez nous. »« Ouais, dis, t'as une auto de course, toi? » J'ai dit « Ouais, ouais, tu sais, je suis un Hyundai Accent. » Là, Jacques, il y avait silence au bout de la ligne. « Hyundai Accent. » Tu veux faire avec ça? Ben là, écoute, c'est mon auto de course sur glace, elle est modifiée pas mal. J'avais une mécanique 2 litres de Tiburon dedans.
Ouais.
Mais écoute, le moteur avait été fait justement par la gang à Saint-Eustache de Key Motorsport.
Oh,
il y avait un moteur, ça avait 200 forces aux roues.
Ah ouais, quand même.
Fait que c'était quand même une bonne mécanique d'un petit auto qui pesait rien. Là. Mais on s'est reviré de bord. Il a fallu qu'on peinture l'auto. En 10 jours, on a essayé de faire quelque chose d'assez phénoménal avec ça.
Mais attends, quand tu fais de la course, là, moi je connais pas ça, là, mais quand tu fais de la course sur glace, j'imagine que tes ajustements sont complètement différents.
Complètement différents.
Tu fais quoi entre les deux?
Ben, je vais te dire que
c'est fort.
C'est le côté qu'on a travaillé le plus qu'on pouvait, mais il en manquait pas mal pareil. Fait qu'on...
Il y a une affaire, ils appellent ça du budget.
Ah, ouais, c'est ça l'affaire.
On s'est présenté à Trois-Rivières avec un auto qui était nettement pas fait pour ça.
Okay.
On avait encore, pour te donner une idée, là, écoute, ça glace, le but, c'est de rouler la voiture le plus mou possible pour que les roues aient de l'adhérence sur la glace comme telle. En circuit routier, c'est à peu près l'inverse. Okay. Mais tu sais, il faut que tu aies un mix des deux, disons. Là.
Ouais.
Mais j'avais encore des chocs, des amortisseurs que tu achètes chez Napa, là, des Monroe Sansadrac en dessous de l'auto.
Ça, c'est quand t'as pas trop d'argent pour changer tes amortisseurs.
Hey, on était arrivé à Trois-Rivières avec ça. Puis écoute, on avait été bénis, on avait été chanceux parce que la course, quand on a fait la course le dimanche,
oui.
Il y a eu une pluie torrentielle. C'était incroyable.
Ah, fait que ça t'amenait un peu plus dans
oui.
Le
nous autres,
style
ça nous a,
de pilotage.
Exactement. De nous autres, ça nous a rapprochés du manque d'adhérence qu'on trouvait sur la glace. Puis l'auto, c'est devenu une fusée. Là. Vraiment, là, je te dirais, là, c'était assez surprenant. Là. On était, puis à l'époque, il y avait des grilles. Là. On était une trentaine de voitures. Ouais. On avait fini 8e ou 9e à l'époque. Là. Mais c'était quelque chose. On avait été chanceux dans le timing d'arrêt au puits. J'avais rentré juste avant un drapeau jaune. On avait fait le switch de pilote entre moi et Jacques. On avait été bénis pour la première course, vraiment. Là. Mais c'est ma première expérience que j'ai faite. Puis après ça, écoute, une piqueuse directe d'inverne. Là, après ça,
y a-tu du monde qui tu sais, mettons, t'arrives avec une voiture comme ça. On va se dire, c'était pas une voiture pour ce genre de course-là.
Pas
mais y a-tu du monde, d'autres pilotes ou d'autres équipes qui te regardent en voulant dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui, il arrive avec ce char-là?
Ah oui, puis écoute, à l'époque, je roulais avec Étienne Bourgeot, qui avait un Acura Tipper, Georges Moustafis, qui est comique puis qui est coloré, qui avait un BM.
Toujours des BMM.
Puis j'ai encore des inboards que j'ai réécoutés il n'y a pas longtemps. On avait mis une caméra avec des tie wraps dans l'auto. Puis ça, à ligne droite, là, on me voyait tirer bien comme il faut Georges avec sa BM M3. Fait que c'était assez surprenant quand même là, la puissance qu'il y avait dans cette auto-là, pareil. Là.
Fait que là, donc, après ça, après avoir fait cette course-là à Trois-Rivières, tu dis, OK, la piqueur direct dans les veines. Fait que tu te diriges vers quoi après?
Ben là, écoute, après ça, je suis allé découvrir le circuit Mont-Tremblant à la fin de l'année parce que j'avais jamais roulé à Tremblant. Fait que là, on est allé courser avec cette voiture-là à Tremblant. Puis j'ai regardé un peu les avenues, mais c'est vraiment une question d'argent à la course auto. Qu'est-ce que je peux me permettre? Qu'est-ce qui est possible? Fait qu'après ça, tu sais, je regardais, moi, quand j'ai commencé, qu'est-ce qui m'intéressait? C'était les formules beaucoup. ça coûte cher quand même, le monde des formules. Fait que j'avais fait un deal pendant l'hiver avec, avec Arfan Motorsport, qui était une écurie de Mirabel, qui avait développé un châssis pour rouler justement en Formule 1600. Il y avait de mémoire, écoute, ça fait un bon moment, là, mais c'était Olivier Lambert qui avait roulé cette voiture-là, qui l'avait développée. C'est une voiture qui était quand même assez rapide. Fait que j'avais fait le champion canadien par la suite de Formule 1600 en 2005 ou 2006. Puis ça avait quand même bien été. J'avais remporté le championnat de recrue de l'année, bien des top 5 au cours de la saison. Puis on se battait avec des grosses équipes, avec des gars qui avaient beaucoup de budget. Tu sais, à l'époque, là, je me rappelle, je me battais avec les frères Odette, avec M. Odette, justement, là, qui était super gentil, puis qui venait me voir, puis qui me donnait des conseils. Puis c'était quand même beau parce que les gens me voyaient arriver un peu de nulle part. J'avais pas fait de karting avant, j'avais rien fait du tout avant, vraiment, qui était attrait à la course auto. Puis j'ai rentré comme du jour au lendemain dans ce monde-là avec des contacts, avec du monde qui m'ont donné des coups de main incroyables. Puis encore là, je pense à Eric Côté aussi, avec qui j'avais été coursé à Daytona. Il m'avait donné la chance d'aller courser en Grand Am Cup à Daytona aussi, là, un an plus tard, après avoir fait ma saison de Formule 1600. Fait que de ce côté-là, j'avais été coursé avec Charles-André Bilodeau. On avait été coursé avec l'équipe Hyundai.
Chouchoun
Bilodeau. Mais écoute,
ça me fait rire parce que c'est le surnom de ma fille, Chouchoun. Je trouve ça hilarant.
Pourquoi lui a ce surnom-là?
Okay. Je sais peut-être beau. Son côté princesse. Salut Charles-André.
Mais écoute, hey, c'est des souvenirs incroyables aussi. Là. Je venais de commencer à faire de la course.
C'est comment justement? Moi, je l'ai roulé des tonnes. C'est toute une traque.
Ah non, non.
Mais quand tu arrives là, t'as pas tant d'années de course que ça dans le corps.
Pantoute.
Puis là, tu t'en vas dans le banking à se drafter par rouler proche. T'as vécu ça comment?
Ben écoute, je suis arrivé là, puis j'ai pas été impressionné tant que ça. Le premier tour, c'est sûr que tu te replaces, tu te mets en perspective un peu, mais c'est tellement grand, c'est tellement ouvert que t'as pas le phénomène de vitesse tant que ça. Puis écoute, c'était le fun parce qu'on roulait, on avait deux voitures, ça c'est les courses d'endurance dans le fond qui étaient en prélude aux 24 heures de Daytona. Fait que c'est quand même, c'était une course de 4 heures. Fait qu'on avait chacun un moment dans la voiture. Moi, je partageais le volant avec Jean-Philippe Papineau.
Oh,
Jean-Philippe était le premier, pilote aussi, était le premier smooth. Pilote. Puis moi, j'étais le deuxième pilote, dans le fond, pour finir la course comme tel. Puis, écoute, à la fin, ça, je vais toujours m'en rappeler aussi, par exemple, parce qu'à la fin, on roulait bien proche. Charles-André était dans la deuxième voiture. Charles-André était en arrière de moi. Puis, il essayait de me dépasser, mais il n'était pas capable de profiter assez de mon aspiration quand même pour me dépasser. Puis, à un moment donné, Éric, il a pogné le radio, Éric Côté. Il m'a dit, bon, il dit, arrêtez de niaiser, les gars. Là. Il dit, Charles-André va te pousser. Là, c'est des radios de course, là, c'est jamais clair. Hein, puis, jamais là, je dis, il va me pousser. Silence, rien. On arrive sur la ligne droite arrière à Daytona. Puis là, écoute, on roule 250, 260 km. Au lieu d'essayer de me dépasser, ben Charles-André venait faire le train puis il venait me pousser littéralement dans le pare-choc en arrière.
Pour que toi, t'ailles plus vite.
Pour qu'on aille plus vite.
Les deux allaient plus vite.
Puis là, on a commencé à remonter le peloton comme ça. Puis écoute, on avait fini 15 et 16e cette fois-là. Puis on était parti avec plus que 100 voitures au départ. Il y avait du monde, puis
il y avait du trafic,
mais ça a été une expérience incroyable, par exemple.
Mais là, juste pour moi, je connais moins ça, mais tu dis que c'était une épreuve de 4 heures, toi tu faisais les deux dernières heures, c'est comme ça?
Exactement, en plein
ça. Mais les 24 heures, ça doit être. Il y a des pilotes qui changent.
Les 24 heures sont 4 pilotes pour faire les 24 heures, puis ils se relaient tout le temps. Mais non, c'est assez incroyable. Tu sais, moi, je suis arrivé là, c'est ça, j'avais pas beaucoup d'années de course en arrière de la cravate, mais je vais toujours me rappeler, tu sais, au driver meeting. Le driver meeting, il était avec tout le monde, avec même les gars qui font le 24 heures. Ouais. Fait que j'étais assis à côté de Jimmy Johnson, Montoya, Pat Carpentier était là. Tu sais, moi, j'étais à côté de ces gars-là. C'est quoi que je fais
le
ici?
Le rêve de TQ, là.
Ben, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Moi,
puis, je veux dire, moi, je pourrais juste assister au meeting, ça irait.
Oh, ben, c'est ça. Moi, je pourrais finalement. Exactement. Oh, fait que, non, écoute, ça a été quelque chose qui m'avait impressionné beaucoup. Puis, je commençais à faire de la course auto. Fait que là, c'est sûr qu'après ça, ben tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours en faire plus. Puis je me fixais des objectifs, j'essayais de dépasser ces objectifs-là tout le temps. Fait que, écoute, c'est des belles années, belles années.
Quand tu finis comme ça, à une de tes premières courses, ben ça c'était une de tes premières, c'était ta première à Daytona?
Ouais, exactement.
Tu te fais-tu remarquer par du monde dans le circuit ou c'est pas assez encore?
Écoute, c'est pas assez pour se faire remarquer, pour dire que c'est pas comme disons au hockey qui a un recruteur qui est sur le banc qui regarde. J'ai été capable de me forger un nom, Mais de là à se faire recruter par des grosses équipes, ben ça m'a amené à rouler avec une équipe de l'Arizona par la suite quand même, parce que je m'avais fait des contacts, puis j'avais roulé justement à mini avec une équipe de l'Arizona, puis j'avais fait quelques autres courses dans la série Grand Dame. Mais tu sais, de là à dire que tu te fais recruter puis tu as une ride 100% payée, on était loin de là.
Ça, c'est, tu sais, quand on commence, les deux, on était bon enfant, tu sais, t'as pas d'Internet à ce moment-là, t'as pas rien. Fait qu'on pense tout que le monde va voir notre talent, notre attitude, notre niveau de travail. Puis là, on se dit, ben là, c'est sûr qu'après 3, 4, 5, 6 bons coups, on dit là, c'est là que ça se passe. Il y a quelqu'un qui va faire, hey, voilà une auto, voilà. Non.
Non.
La vraie vie, c'est pas ça.
Non, effectivement. Faut que tu travailles encore plus fort, faut que tu trouves plus d'argent.
Ouais. C'était quoi justement la suite après ça, après Daytona?
Écoute, après Daytona, dans le fond, après Daytona, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, justement, sous les conseils d'Éric Côté, j'ai bâti une Corvette. J'essayais de trouver l'auto qui allait le coûter le moins cher possible et qui allait aller le plus vite que possible. Puis là, je m'en rappelle, j'avais appelé Éric à un moment donné. J'ai dit, écoute, Éric, je veux avoir quelque chose qui avance, puis je veux avoir quelque chose qui va vite, mais j'avais pas de budget.
OK.
Fait que là, il dit, mais tu pourrais t'acheter une Corvette, c'est pas cher à rouler, ces Corvettes-là, et ça brise pas. Puis là, dans ces années-là, écoute, c'est en 2000, peut-être 2010, là, je regardais les générations de Corvettes C5. C'était quand même une super belle géométrie, là, qui était arrivée là, quand même avec un châssis qui était hyper efficace. Des bonnes motorisations aussi, le début des LS.
Ouais.
Début des LS. 405 HP d'origine, c'est Z06, je pense, dans ce temps-là.
Oui, exactement, avec le 6 litres. Mm. Fait que là, j'étais arrivé, moi, justement, là, j'avais trouvé une voiture accidentée. Puis, hey, je me rappelle toujours aussi, il y a un de mes chums qui m'a aidé beaucoup aussi cet hiver-là, Serge, qui a un garage à côté de chez nous. Puis, c'était un de mes chums de jeunesse aussi qui m'a inspiré beaucoup, qui avait une Mustang dans le temps. Puis, je veillais avec ces gars-là, qui avaient des Camaro puis des Mustangs. Puis, je me disais que je voulais courser. Fait que là, Serge, c'est ça. Lui, il avait un garage. Puis là, le deal qu'on avait fait, c'est qu'il dit, écoute, tu trouves une voiture,
mm-hmm.
et tu vas te prêter l'espace pour okay. la réparer. Fait que j'avais trouvé un auto dans le coin de Granby. Puis, écoute, c'était un gars qui vendait des Corvettes. Disons accidenté, que celle-là, il m'avait vendu parce que c'est une voiture qu'il avait achetée pour les pièces. Pour okay. donner une idée, là. Mais la Corvette était démontée pas mal.
Okay.
Le châssis était pas magané, le châssis était intact, mais il restait plus rien après l'auto. Il avait pris à peu près toutes les pièces possibles et imaginables, il restait un pare-brise sur l'auto. Là.
Ah!
Fait que le pare-brise, le châssis, puis il y avait un moteur qui était pas en marche dedans. Fait que je m'en rappelle, j'étais arrivé le matin au garage à mon chum, puis je regarde sur le trailer, puis c'était un trailer ouvert, c'était en plein hiver. Je regarde ça, puis c'était à peu près au mois de février, puis on commençait à courser au fin avril, début mai. Là.
Hey boy.
Fait que là, il me regarde, tabarnouche, j'ai le projet, toi. Ben, ça va être occupé les prochaines semaines. Fait que finalement, j'ai bâti cette voiture-là pendant l'hiver avec mes chums qui m'ont aidé, puis on est arrivé aux courses avec ça. Puis, effectivement, la voiture, c'était une fusée en partant. Là.
Ah
ouais? Oui, ben, j'avais quand même eu des bonnes relations. J'avais parlé beaucoup avec une équipe, c'était Doug Rippey Motorsport, ça s'appelle. Il était dans le Minnesota, je me rappelle bien. C'est des gars qui avaient une équipe de Corvette. Fait que j'avais fait les affaires quand même comme il faut. J'avais appelé ces gars-là, on avait parlé beaucoup, ils m'avaient dit quoi mettre comme suspension, quoi mettre comme frein sur la voiture. T'sais, ils développaient des Corvettes.
OK.
Fait que j'étais parti. Aide. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait le développement au complet, j'ai triché un peu. Fait que j'étais arrivé avec des bonnes pièces à la voiture. Puis dans ces années-là, j'ai eu des belles années de course aussi, vraiment. Là. Écoute, j'ai gagné les trois championnats en ligne, dans le fond, du Québec. J'ai gagné, je pense, c'est 2009, 2010, 2011 que j'avais gagné le championnat les trois années en ligne avec ma Corvette. Puis genre, je roulais avec Julien Pilon dans ces années-là, avec la chute de performance aussi.
Puis, écoute, que de bons souvenirs.
Si jamais Julien écoute, c'est certain qu'il va se souvenir de quelques épopées qu'on a eues sur la piste aussi. Puis, il y a des vidéos YouTube, si on tape, disons, Corvette Subaru sur YouTube,
ah ouais.
on peut tomber Corvette. Subaru Icar, puis prenez-vous du popcorn. Là.
Moi, si vous me dites ça, c'est sûr que je vais vous le demander.
Ben,
c'est quoi l'affaire?
Écoute, moi, je ne laissais pas un centimètre sur la piste dans ces années-là, puis j'en laisse pas encore bien plus. Puis Julien, c'est la même chose. On était deux têtes de cochon, fait que okay. si un mettait les pieds en avant de l'autre, souvent, ça finissait des fois avec un coup d'une porte.
Puis avec deux autos, pas nécessairement rapides, exactement aux mêmes
exactement.
Endroits.
Okay.
Fait que dès que un voyait qu'il y avait l'avantage dans cette section-là, l'autre, il disait « Hey, oublie ça!
Ouais. »
C'était...
C'était vraiment ça. Non, c'était vraiment ça parce qu'effectivement, lui roulait avec un Subaru. Puis écoute, sa Subaru, c'était plus puissant que ma Corvette. C'était traction intégrale.
Ouais.
Mais la voiture avait des points forts à certains endroits où est-ce que moi, c'était le contraire. Moi, j'avais des points faibles. Puis à d'autres endroits, j'étais plus rapide sur la piste. Fait que ça donnait des courses assez serrées. Là. Il y avait toujours des opportunités qui s'ouvraient. Puis des fois, ça finissait un peu serré aussi. Puis écoute, j'étais pas du genre à lever le pied pendant tout. Mon auto, je l'avais bâti moi-même. Puis c'est une coquille en fibre de verre. Fait qu'au pire, tu fais un peu de fibre pendant la semaine, puis t'es prêt à repartir. Puis tu sais, je roulais avec un monsieur Hébert aussi. Il avait une Porsche 997, une Coupe dans ces années-là. Ça devait être... C'était, je me rappelle plus exactement c'était quelle année sa voiture, mais c'est une voiture qui était hyper rapide. Puis, tu sais, c'est ça, disons qu'on arrivait deux de large dans un virage, ben les gars, ils savaient que j'allais pas lâcher, ben. Fait que souvent, tu sais, je roulais avec des voitures qui valaient quand même cher. À Mosport, on roulait avec des Ferrari, avec, tu sais, contre plein d'autres voitures. Puis souvent, ben les gars, tu sais, ils étaient peut-être un peu plus gentlemen que moi, à ce moment-là. Puis j'étais pas du genre à lever le pied, ben. Fait que ça finissait qu'on avait quand même des très, très bons résultats à travers des voitures qui valaient 7-8 fois le prix de ma voiture à moi, comme tel, là.
Attends, donc toi, tu, avec ta Corvette, tu roulais des fois contre des Ferrari, tout ça?
Ben oui, oui,
ah, okay. D'où l'idée qu'il y en a d'autres qui avaient des valeurs plus grandes.
Ben là, oui, exactement, véhicule, là. Exactement, en plein ça. Là,
ça, c'était dans quel circuit?
Ben, au début, dans le fond, j'avais coursé dans le championnat GT du Québec. Okay. Par la suite, est venue la série Supercar canadienne.
Okay.
Fait que c'est là justement que j'ai gagné un championnat dans la série canadienne de Supercar là, en 2015, de mémoire, 2014 ou 2015. Ben c'est ça, à un moment donné, je me cherchais d'autres choses aussi. Il y a eu un moment aussi que j'ai coursé avec Lombardier Honda,
oui,
avec les Civic de Tony Lombardier aussi. Écoute, j'ai eu bien du plaisir aussi avec ces voitures-là, avec Ben Distolo qui était mon teammate, Nick Whitmer aussi qui était mon teammate, Nick, un gars qui s'est conduit pas à peu près. Ah oui. J'essayais toujours de me battre, puis j'essayais toujours d'être plus vite que Nick. Mais écoute, j'ai travaillé. Je pense que dans l'été, il y a une session où j'étais plus vite que Nick. Là. J'étais toujours pas loin, mais il était rapide, puis il était
Nick
dur à aller
Kuno
chercher.
Whitmer, c'est deux phénomènes, puis c'est deux gars qui sont ramassés de haut niveau professionnel. Là, c'est...
On se ramassait. Je me rappelle une course, on s'en allait courser à Montréal, puis il y avait une course comme le week-end d'avant à Saint-Eustache. Puis là, Tony Lombardier m'a dit, là, les gars, il faut pas que vous touchez aux voitures, il faut pas que vous endommagez les autos pantoute. Puis Nick puis moi, on s'était battus.
On dirait que c'est une phrase qu'il faut pas dire. C'est comme, on dirait, c'est un curse.
Ouais, puis j'avais une shot. C'était à peu près la seule shot dans la saison que j'avais pour battre Nick. Et j'avais été en avant pratiquement toute la course. Les derniers tours, on s'était dépassé deux fois. Il y avait court-circuité à chicane. J'avais été bon pour repasser. Puis on avait tombé deux de large juste dans le dernier virage avant d'arriver au finish line à Saint-Eustache. Puis on n'avait pas de chaud aux voitures, mais écoute, c'était serré pas à peu près. Fait que ça, c'était dans le championnat canadien aussi. Fait que c'est tous des super beaux souvenirs de course que j'ai. Puis
Carl, t'étais où à ce moment-là? En 2015? On était en 2015?
Ouais, entre 2012 et 2015, je te dirais. Là.
Je devais être dans mes années drift, vers la fin des années drift. Moi, j'ai toujours été du circuit routier à drift, à glace, au rallye cross. Moi, j'étais une super balle. Là. Tu sais, j'allais où est-ce que le monde me disait d'aller, puis je rebondissais partout.
T'es allé où est-ce qu'il y avait du budget?
Ben oui, essentiellement, où est-ce qu'il y avait des volants. Puis j'ai pas les capacités mécaniques de Simon. Okay. Tu sais, moi, je peux faire de la mécanique de base, tu sais, des jobs de briques, des affaires, mais Simon, c'est un solide préparateur. Là. Puis fait que c'est sûr que ça t'a aidé à combiner avec ta capacité de travail puis que le fait que tu lâches jamais, ça t'a amené à avoir des saisons extraordinaires. Là.
Ben c'est sûr que ça prend une tête de cochon, c'est certain. Puis écoute, les heures dans le garage, faut pas les compter non plus. Mais tu sais, je dis ça, je suis chanceux parce que je suis super bien entouré aussi. Tu sais, j'ai une équipe de mécanos qui travaille avec moi encore aujourd'hui en NASCAR. Tu sais, on est tous des amis à la base. Il y a personne qui est vraiment professionnel là-dedans. Mais tu sais, on vient à bout de préparer des voitures pour se battre avec des grosses équipes professionnelles, puis c'est pas si gênant que ça, pareil. Fait que...
Mais il doit y avoir un bon buzz, justement, là-dedans, de dire exactement ce que tu viens de dire là. Nous autres, on n'est pas des professionnels, même si je considère quand même que vous devez l'être à quelque part, puis vous battez contre des grosses équipes. Tu sais,
ben oui, c'est ça.
Un peu David contre Goliath tout le temps. Fait que vous avez toute la même raison d'être là.
Ben oui, non. Équipe, c'est sûr. Et écoute, je pense juste après ça, après les années de ma Corvette, là, je me cherchais d'autres choses à faire. Notre gagné le championnat canadien. Fait que là, je regardais la série NASCAR, justement, Canadian Tower à l'époque, qui est devenue NASCAR Pinty's. Puis là, je regardais ça, puis je voyais les pilotes qui roulaient là-dedans. Puis Andrew, ça a tout le temps été un pilote que j'adorais, Andrew Ranger. Puis je voyais ces gars-là. J'ai dit, faut que j'aille rouler avec ces gars-là. Mais là, quand je suis arrivé là, j'ai frappé un nœud parce que le budget, écoute... Là,
explose.
Oh, et là, le budget explose. T'sais, moi, je partais des années avec ma Corvette. Que j'avais acheté un lot de 100 pneus usagés puis j'avais fait 3 saisons avec ça. Puis c'était vraiment ça le pire. Là. J'avais acheté un lot d'une équipe de LMS dans ce temps-là, vendu par un gars de l'Ontario. Puis j'avais pas acheté un pneu neuf de toutes les années que j'avais roulé avec ma Corvette. Puis là, j'arrivais en Pinty, c'était pas le même budget pantoute, là, mais vraiment pas. Là. Fait qu'on arrivait aux courses avec mon... j'avais dans ce temps-là un petit trailer fermé. Puis écoute, c'était un trailer 20 pieds, là, fait que c'était pas gros.
Le char rentre, puis il rentre rien derrière.
Non, ben là, c'est ça. Là. Puis les gars, eux autres, ils arrivent là avec un 53 pieds, puis la grosse affaire. Moi, j'arrivais avec mon camion, puis les gars, ils riaient. J'avais un Chevrolet 2500 HD dans ces années-là, avec un 6 litres des années 2000. Là. On descendait courser à Mosport avec ça. J'avais un drum de fuel dans la boîte en arrière. J'avais mon moteur d'espère qui était là. Parce que au moins j'avais un moteur d'espère. J'avais 8 roues dans la boîte du camion. Le camion était écrasé à terre. J'avais l'auto en arrière. Puis on arrivait, puis on débarquait dans les paddocks avec les grosses équipes, puis avec des gars avec qui j'admirais depuis des années. Puis on avait quand même des... Tu sais, la première saison que j'ai roulé, quand on est arrivé à Trois-Rivières, la première course que j'avais faite de la saison avait moins bien été à Mosport, si on peut le dire comme ça, parce que j'avais sauté mon premier moteur à Mosport en partant. Okay. Ça avait fait mal.
C'est pas des moteurs à 1500 pièces.
Non, ça avait fait mal. Mais quand on était arrivé à Trois-Rivières, écoute, il y avait des grilles de 32, 33 autos, puis on avait fini 10e à Trois-Rivières. Fait que ça, pour nous autres, c'est une victoire.
Puis tu penses que les équipes en général avaient un budget combien plus grand que le tien pour...
Écoute, c'est 10 fois.
10 fois.
Hein? Oh, exemple, si tu roules 100 000, les autres roulent 1 million.
Ouais, c'est pas des budgets d'un million. Là. On peut y aller à plus petite échelle un peu, mais c'est des budgets de 300-400 000 par année pareil. Là. C'est des gros budgets là, quand même rendus là. Puis écoute, même la première année, on avait roulé, Jacques Villeneuve roulait avec nous autres. Ouais. Mais j'étais en train de me pincer dans l'auto. Là, à un moment donné, je suivais à Trois-Rivières. Là, puis je me battais avec l'auto qu'on venait de préparer à 4 pattes dans le garage chez nous.
C'est bon, ben, ça te fait connaître toute la valeur de ce que tu fais aussi.
C'est sûr. Chose dans la vie, mais je te dirais que c'est pas le chemin facile. T'as quand même pas aller aux courses. Pas le choix parce que si je voulais rouler dans cette série-là, fallait que je fasse des efforts de la sorte. Mais écoute, c'est tout le temps ça qui m'a démarqué un petit peu. Là, j'ai travaillé quand même pas mal pour être rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ben,
on parle de David Goliath, un dépassement d'anthologie que Simon a fait au Grand Prix de Trois-Rivières il y a des années. Puis tu avais celui qui avait la grosse commandite nationale de Castrol et tu avais Simon avec un beaucoup plus petit collant sur son auto du même manufacturier. Puis ça vaut à peine que tu expliques le dépassement. Écoute, c'est de toute beauté.
Ouais, écoute, ça touche.
J'ai jamais vu Didier Scranon aussi excité à décrire une course. Là.
Mais ça fait pas si longtemps, le fils, c'est en 2019. C'est en 2019. Puis moi, dans le fond, j'ai roulé dans le fond 2017, 2018, 2019 avec une voiture aux couleurs de Castrol. Avec la gang du Québec ici, j'ai eu un super bon deal. Ça m'a permis de courser les courses du Québec avec une voiture aux couleurs de Castrol. Et Castrol, eux, commanditent une grosse commandite nationale, un coureur qui s'appelle DJ Kennington aussi. Il doit courser, ça doit faire 20 ans ou 25 ans en NASCAR canadien. Puis on est arrivé, c'était la première course que je faisais avec l'écurie Dave Jacobs aussi. Un super bon préparateur du côté de l'Ontario. Ce week-end-là, écoute, tous les gens de Castrol du Québec étaient là. Il y avait une loge, puis on avait été, j'avais été rencontrer les gens, puis j'étais prêt pour la fin de semaine, j'avais une bonne voiture. Puis c'était assez touché parce que mon coéquipier, en plus, au sein de l'écurie de Dave Jacobs, c'était Alex Labbé. Puis il restait une couple de tours à la course. Il devait rester 5-6 tours à la course. Puis j'étais en 7e position, qui était quand même très, très bien. Mais je m'en rappelle, en sortant de la porte du Plessis, justement, à Trois-Rivières, Alex était en avant de moi, Alex Labbé, puis il était 2 de large avec Kennington. Fait qu'Alex, qui est mon teammate, puis il y avait DJ qui était là aussi, qui roulait la grosse commandite Castrol. Eux étaient nez à nez, puis moi, j'étais juste en arrière. Puis en sortant, ben, j'ai vu qu'ils n'ont pas eu une si bonne sortie du virage. Puis écoute, ça mène une longue ligne droite. Et moi, j'avais bien de la vitesse, dans le fond, en sortie de virage. Puis j'ai amené cette vitesse-là jusqu'au bout. Mais écoute, rendu au bout, là, ça vire 90 degrés. Là.
Il y a beaucoup d'accrochage.
Il y a beaucoup d'accrochage. Je ne sais pas à quelle vitesse qu'on peut arriver, mais on arrive quand même assez vite, là, presque au bout de la gear de nos véhicules. Là. Fait qu'on arrive en haut de 200 facilement.
Okay.
Puis je me suis dit dans l'auto que j'avais une bonne shot pour être capable d'en dépasser deux en même shot. Temps. Les deux se battaient côte à côte.
Ouais.
Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai déboîté d'un coup sec. Puis écoute, ça a passé. Ça a super bien passé. J'ai pas touché personne. Je me suis placé là. Je les ai dépassés directement, puis j'ai tombé cinquième à quelques tours à faire. Puis écoute...
Tu as tenu ta position jusqu'à l'arrivée.
Non, c'est ça qui a été plus difficile. Ça a moins bien terminé, par exemple. Ça a moins bien terminé parce qu'une couple de virages plus loin, disons qu'il y en a un qui n'était pas trop content non plus, qu'il ait fait un dépassement comme ça, qui est venu m'en donner un coup dans le bumper en arrière, puis j'ai fini dans le mur.
Un bon Québécois, on dit...
Non, c'était pas DJ, mais c'était mon autre coéquipier.
Quand on dit se faire domper, là, c'était pas élégant comme manœuvre, disons-le comme ça, là.
La tienne, ta manœuvre était élégante, mais celle d'après, elle l'était moins.
Ben, moi, j'ai pas touché à personne, puis ça a passé. Bon, mais écoute,
c'est dans les règles de l'art.
Ça fait partie de l'adversité qu'on peut retrouver sur la piste aussi.
Et pour faire du millage là-dessus, moi, je suis pit reporter pour la série. Bon, on est en direct à RDS. Fait que je vois Simon se faire domper ses écrans. C'est mon grand chum. Moi, je voyais sa course, je le voyais top 5. Écoute, j'avais les larmes aux yeux qui coulaient, je le vois se faire domper. Et je suis obligé de faire une entrevue de podium avec le gars qui l'a dompé.
Avec le dompeux.
Fait que les deux premiers, je fais de la belle entrevue habituelle. Puis la troisième, qui s'attend à une question, t'es-tu fier de ta victoire? Tu remercies tes commanditaires, peu importe. Je dis, OK, ça va être comment dans les puits avec ton coéquipier suite à l'accrochage? Long silence, merci.
Fait que
on repasse au studio. Je dis, là, c'était gars. J'étais pas content.
Puis, vous avez parlé tantôt, vous avez effleuré ben, en fait, c'est toi, Simon, qui a parlé de ça, mais Trois-Rivières, le circuit, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Tu disais, les murs sont proches.
C'est un circuit aussi, urbain. Mais... C'est un circuit urbain. Écoute, moi, c'est le genre de circuit que j'adore parce que c'est quand même des... T'as des longues lignes droites, mais des coins très, très serrés.
Ouais. OK.
Puis, écoute, ça donne lieu à des bons dépassements. Ça donne lieu à des bonnes batailles sur la piste. Puis l'ambiance, écoute, c'est beaucoup l'ambiance aussi du week-end. C'est la grosse fin de semaine. Même au Canada, dans la série NASCAR canadienne, ben, c'est la plus grosse fin de semaine. Fait que tous les commanditaires sont là. Dom Fugère qui fait un job incroyable aussi à titre de directeur général du Grand Prix. Il y a de l'ambiance. C'est vraiment le package complet qui fait qu'à chaque année, c'est un événement qui est unique. Là.
Et il n'y a pas d'air à Trois-Rivières. Sur le circuit, là, tes freins ne refroidissent pas.
Ça, c'est
C'est une piste qui est épouvantable pour le système de freinage. Fait une partie de ta course, il faut que tu gères pour réussir à bien la terminer. Fait que c'est très, très difficile, ces pilotes, puis presque pas d'échappatoire.
Ça veut dire quoi, gérer ses freins? Ça veut dire rouler moins fort pour moins les maganer, mais pour
Simon,
durer.
C'est un champion, il est meilleur que c'est moi pas mal là-dessus.
Ouais, c'est du managing de course, je te dirais, beaucoup, beaucoup. Les freins, les pneus. Nous autres, nos voitures, c'est assez pesant. Les voitures de la série NASCAR canadienne, c'est des voitures assez pesantes. Le système de freinage est correct, mais il faut quand même y faire attention aussi. Ça s'est amélioré beaucoup au fil des dernières années, mais encore là, faut faire attention à nos freins.
Mais ça, chaque voiture, c'est comme toutes les séries. Tout le monde a obligatoirement les mêmes pièces.
Écoute, il y a certaines pièces différentes qu'on peut utiliser sur nos voitures NASCAR. Okay. Présentement, cette année, même, ils viennent de changer le système de freinage complet. Il y a des gens qui vont continuer de rouler les anciennes générations. Il y a des gens qui vont essayer les nouvelles générations de freins. Ça va être à voir aussi un peu là, vers où qu'on va s'en aller. Mais en gros, c'est sûr qu'une piste comme à Trois-Rivières, tu peux pas attaquer à chaque tour comme si ça serait le dernier. Il faut vraiment que tu gères ta course. Puis il y a beaucoup de relances. Fait que souvent, il y a des accidents, souvent, il y a des accrochages. Fait que ça donne des restarts, ça donne des relances aussi. Fait que là, c'est d'essayer de jouer justement pour manager puis garder ton stock à la fin pour justement être vite pour la dernière relance puis essayer de passer le plus de voitures aussi à dernière relance comme telle.
C'est vraiment de la gestion.
C'est de la gestion.
De ton véhicule.
Puis j'avais de la misère avec ça au début. Je m'en cache pas au début. J'essayais d'aller vite le premier tour tout le temps. Puis en ovale aussi, j'ai commencé à faire des courses en ovale. J'avais pratiquement pas d'expérience en ovale. J'ai commencé dans la série canadienne. Puis aller vite avec l'auto, un tour, j'étais capable de le faire puis ça allait bien. J'étais capable de bien qualifier. Mais aller vite 300 tours avec un auto, c'est de la gestion pas à peu près.
En plus, tout le stress psychologique aussi. Si tu es leader, j'imagine que c'est complètement différent que si tu suis le groupe parce que tu as plein d'accrochages en avant de toi qu'il faut que tu aies vite ou bien tu peux être drafté, tu peux pas. Puis là, quand tu es en avant, moi, ça me ferait capoter. T'sais. Moi, c'est ça qui me fait... À chaque fois qu'on reçoit des pilotes comme vous autres, c'est comment tu fais pour gérer, être en avant puis d'être seul en sachant qu'il y en a un qui te pose dans le cul. On a rien que c'est une bretelle d'autoroute, il y en a un qui te colle trop puis ça me gosse, tu sais. Vous autres, vous êtes là à 300 puis vous êtes de même, c'est capoté.
Ouais, mais c'est le fun.
Simon, on doit avoir une photo du NASCAR à Simon, justement, dans... Exactement.
Ah,
Fait que ça, c'est tes nouvelles couleurs.
Ça, ben, c'est mes nouvelles couleurs de cette année, justement. Avec,
ah,
avec,
il est beau le char, hein?
Oui, il est beau. Encore il est beau. Puis écoute, les couleurs, ben, justement, on les a choisies avec, avec Marcel Duclos. Puis c'est le fun aussi parce que Marcel, à la base, c'est Carl qui m'a le présenté. Mm. Fait que ça, c'est une belle histoire aussi, pareil. Là, on a commencé à faire des tournages, moi et Carl, ensemble.
On peut dire qu'on aime l'échangiste, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Ah, puis c'est un grand passionné. Marcel Duclos, c'est un passionné hallucinant de voitures. Lui aussi, c'est un collectionneur.
Ah non.
Puis, moi, je l'avais vu d'un événement Lamborghini dans le temps, puis il m'avait dit, tu veux des autos, mais tu sais, souvent, on se le fait dire, mais le monde, ils sont nerveux, puis lui, il était arrivé, combien tu veux de pneus? Pardon? Ouais, combien tu veux de pneus? Là, tu vas le brasser, le char, là. Oh, OK, on est sérieux. Là.
Ah non, on peut dire que c'est un vrai.
Dans les images génériques, là, vous voyez des fois d'un peu de fumée, ben, il y a une partie des véhicules qui était à M. Duclos.
Ben non. Okay. M. Duclos, c'est-tu le propriétaire de Chrysler?
Duclos Chrysler.
Okay. Ben, quatre concessions Chrysler. Puis cette année, ben, c'est mon commanditaire principal.
Okay.
Ça fait très quelques cool. années qu'on se parlait, moi et Marcel. Mm-hmm. Puis il dit, écoute, il dit, cette année, on y va puis j'embarque avec toi. Puis moi, ça m'a donné un méchant coup de main aussi, parce que veux pas. Moi, que les années de pandémie, ça a été un peu plus rough. Ouais. Après ça, là, tu renégocies des commanditaires aussi. Moi, j'ai tombé en renouvellement de contrat avec Castrol en plein milieu de la pandémie.
Ouais.
Fait que c'était pas le timing idéal. Fait que après ça, cette année, ben c'est ça, ça s'est décidé assez tôt, au mois de novembre 2023, l'année passée. Dans le fond, Marcel m'a dit, écoute, j'embarque avec toi. Fait qu'on a racheté, moi j'ai une voiture d'Oval, là, on a racheté une voiture de circuit routier avec Marcel directement.
Okay.
Donc même le groupe Duclos a racheté un véhicule directement.
Fait que ça te permet de faire plusieurs styles de course dans l'année.
Les courses en ovale, les courses en circuit routier aussi.
Sans louer aussi.
Ben c'est ça, parce que là, je suis propriétaire aussi de... Oh. On est propriétaire de notre matériel.
Ouais.
Fait que de ce côté-là, écoute, moi, ça m'a donné un coup de main parce que, veux pas, qu'est-ce qu'on dit souvent aussi, c'est quand on va chercher un partenaire, ben après ça, aller en chercher d'autres, ben c'est plus facile. Puis c'est un peu ça qui s'est... C'est un peu ça, envers et contre tout, ce qui s'est passé aussi. Tu sais, Marcel m'a donné vraiment un bon coup de main avec le groupe Duclos au mois de novembre. Moi, j'ai mis quand même les bouchées presque les bouchées doubles pour aller chercher de l'argent supplémentaire parce que j'avais besoin d'un budget de course supplémentaire. Puis là, j'ai re-signé plusieurs commanditaires justement pour cette année. Fait que ça va me permettre de courser.
Tu vas faire combien de courses si tout va bien, mettons, puis temps mécanique que ouais. tu sais.
Ben écoute, cette année, dans le fond, je vais me concentrer, je vais faire les courses au Québec de la série canadienne.
Okay.
Fait que ça donne quatre courses, dans le fond. Fait que je vais faire le Grand Prix de Trois-Rivières, circuit Icar. Je vais faire l'autodrome Montmagny aussi, puis l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction.
La série canadienne, il y a combien de courses au total?
Au total, il y a 12 courses.
Ben, ça implique que là, ceux qui les font toutes, le budget il est exponentiel, il est explosé, ils traînent leur char, le staff partout maritime, West Coast, East Coast. Là.
Ben, quand je parlais d'équipe professionnelle, ben, c'est ça aussi. C'est ça. Veux pas, il y a une partie du championnat qui joue dans l'Est. Fait que les gars vont jusqu'à Terre-Neuve. Vont en Nouvelle-Écosse. Mm-hmm. Il y a une partie du championnat qui joue dans l'Ouest. Les gars vont du côté de l'Alberta aussi courser. Fait que là, c'est là que ça implique des gens qui sont à temps plein à travailler sur les véhicules. Qu'est-ce qu'on n'est pas nécessairement comme tel, mais écoute, je suis super bien entouré. Puis, c'est ça, les gens de mon équipe, je le dis tout le temps à mes gars de l'équipe, là, je pourrais pas faire ça s'ils ne seraient pas là, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Ça a l'air d'un sport individuel, la course, mais c'est tout à fait le contraire. Là.
C'est
tout à fait le contraire. Écoute, ça prend des passionnés, des gens qui viennent m'aider dans le garage à préparer l'auto, des gens qui viennent m'aider aux courses aussi, justement. Là. C'est ça qui est le fun aussi. On fait des arrêts au puits avec la voiture. Puis, tu sais, souvent, on se pratique un peu dans le garage chez nous, mais on n'a jamais la même dextérité ou la même pratique que les gars qui courent annuellement ou toute la saison complète. Mm. Puis, on arrive à faire un arrêt au puits, puis souvent, ben, on fait des très, très bons arrêts au puits, même qui se comparent aux grosses équipes de pointe. Puis ça, c'est drôle. Puis ça, c'est, moi, c'est le bout que j'aime aussi. Là. Puis les gars, écoute, je le sais, ils sont stressés. Ils pas donnent. À peu près. Là, Martin, un gars qui est dans mon équipe, c'est lui le fuel man. Fait que c'est lui qui fuel l'auto. Là, puis je le sais, les gars sont stressés. Puis moi, ça me fait rire. J'arrive au puits avec l'auto. Puis moi, j'ai le grand sourire. Là, je le sais, là, c'est là.
Ils prennent au sérieux.
Oui, ils se prennent au sérieux, mais ça fonctionne. Puis écoute,
c'est ça.
Moi, c'est ça que j'aime parce que là, j'implique tout le monde aussi avec moi. Puis tu sais, à un moment donné. Non, c'est ça. Puis on va tout aux courses pour gagner, mais tu sais, à un moment donné, moi, je peux faire une erreur sur la piste, eux autres peuvent faire une erreur d'impuis. C'est ça que je dis aux gars. Je dis, écoutez, prenez pas trop ça au sérieux, arrangez-vous pour avoir du fun en premier. Puis écoute, après ça, les performances découlent du reste. Mais je te dirais que je suis chanceux parce que j'ai une très, très bonne équipe aussi à préparer l'auto avec moi.
J'ai une question, moi.
Tu sais que t'as le droit d'avoir des questions.
Parce que ça, j'ai jamais posé cette question-là. Toi, là. Parce que moi, je te connais. Là. Je sais que tu es un maudit naturel qui se pratique pas tant. Puis, c'est quoi le niveau de préparation d'une course? As-tu le droit de rouler ton char ou bien le risque de le briser est trop grand? Fait qu'il faut que tu manages que quand tu as fait un tour puis que tu es dans les essais libres, tu es parfait, c'est beau, j'arrête ça, je parque ça pour pas le briser. C'est quoi ton. Faut que tu t'y ailles une semaine avant? Chez vous, tu prends pas ça dans la rue? Tu essayes ça quand ton char?
Non, ben écoute, ça, encore là, c'est une question de budget aussi. Ouais. C'est sûr, parce que ça prend des pneus, ça prend du gaz quand tu vas rouler. Mais le but, ben, c'est d'essayer de me pratiquer le plus que possible, c'est certain. Écoute, c'est ça que je me suis dit cette année. Je me suis dit que j'allais essayer d'aller me pratiquer, justement. J'ai deux circuits qui sont quand même assez proches de chez nous, avec Chaudière, avec Montmagny. Fait que je me suis dit que je voulais aller tester, justement, quand même pas mal avant les courses. Mais t'arrives comme une piste comme à Trois-Rivières, tu peux pas tester avant. C'est un circuit, c'est un circuit unique, c'est un circuit routier qui fond, justement, au cours de l'été. Fait que tu peux pas aller te pratiquer là-bas. À Icar, on va aller se pratiquer, c'est sûr. Mais écoute, encore là, c'est ça, il faut que tu arrives avec un bon niveau de préparation. Puis, tu sais, j'ai fait des miracles avant avec des voitures souvent qui faisaient que j'étais capable d'avoir des bonnes performances. Mais en NASCAR, le niveau de compétition est tellement haut que j'ai pas le choix d'arriver avec un minimum de préparation. Puis j'essaie justement de focusser un peu plus sur la préparation. Autant préparation physique, quand c'est comme, disons, la course à Mosport, ben là, je n'irai pas la faire cette année, ouais. Mais quand je coursais à Mosport, je me pratiquais sur simulateur aussi avant. Tu sais, j'essaye quand même d'arriver préparé là, pour être en mesure, justement, d'offrir des bonnes performances. Mais au début, quand j'ai commencé, c'était pas évident non plus, parce que des fois, la préparation de l'auto demandait tellement de temps que là, des fois, écoute...
T'es obligé de négliger de la conduire.
Ben oui, c'est sûr. J'ai passé des nuits blanches, des fois, avant de partir aux courses avec Clément, justement, mon chef mécanicien aussi, là, à travailler dans le garage. Des fois, des nuits complètes avant de s'en aller aux courses. Là, j'arrivais à la fin de semaine de course brûlé, mais brûlé raide. Tu sais, parce que j'avais tellement travaillé sur l'auto puis la mettre en ordre pour être sur la piste qu'à un moment donné, c'est comme le côté que je négligeais. Fait que j'essaie, en tout cas, de ne plus me ramasser dans ce genre de situation-là. Mais c'est des situations qui ont quand même arrivé assez fréquemment pareil.
Dans pas longtemps, tu vas avoir ta relève. Ton garçon est rendu qu'il prend des ratchets depuis qu'il est né. Il va être capable de te donner un coup de main.
Ça. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai la chance d'avoir un petit gars qui me suit pas mal là-dedans. Fait que ça, c'est pas pire. Là.
Mais peux-tu toi, dire? Le fait que tu es tant impliqué dans la mécanique, mettons, de ton bolide, on va dire ça comme ça, as-tu l'impression, des fois, quand tu courses, que tu vois ton char en 3D, dans le sens que tu as tellement vu toutes les pièces, tu les as tellement toutes travaillées, tu le connais par cœur, ton char?
Oui, c'est sûr.
Fait, quand tu courses, est-ce que, oui, tu vois la piste et tout ça, mais quand tu files ton auto, c'est comme si tu le vois. Je sais pas si tu comprends ma question.
Oui,
je comprends. Tu visualises la
relation de cause à effet.
De mécanique de ton char, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Alors, tu te demandes tout le temps si tu as serré le bourgeois en avant.
Tu vas le voir dans le prochain virage.
Non, c'est ça. Mais non, écoute, c'est sûr que je pense que ça donne une perspective différente, par exemple. Puis ça m'amène à plus comprendre la voiture aussi. Puis peut-être à plus la respecter un peu. Ça, je pense que c'est ça que je peux dire aussi, parce que c'est sûr que des voitures comme ça, il faut quand même que tu les respectes aussi. Puis il y a tellement de poids aussi qui rentre en ligne de compte avec ces voitures-là, c'est de la physique. Fait qu'il faut pas que tu brusques l'auto trop non plus, puis à la limite, tu veux aller vite pareil, fait que... Faut aller chercher le juste milieu, justement, là. Mais c'est encore là, c'est une question de gestion aussi. Mais je pense que ça m'aide de préparer la voiture comme telle. Ça me donne une notion mécanique que certains pilotes ont peut-être pas. Mmh.
Bon, on parle de forme physique. Simon, je fais tout le temps des jokes sur ses avant-bras de Popeye, là. Mais moi, je me rappelle d'une course où est-ce qu'il y avait eu un bris au circuit Icar.
La roue direction a lâché sur l'auto. Mais écoute, je roulais des gros moteurs Dodge dans ce temps-là, un moteur en fonte, beaucoup, beaucoup de poids en avant, des gros slicks de 10 pouces. Fait que le volant, il est dur à tourner pas à peu près. Quand t'as plus de cerveau direction, là, il est raide à tourner puis pas à peu près. Là. Puis à moi, à peu près, à mi-course, la cerveau direction a lâché. Puis je me suis entêté, j'ai dit, faut que je finisse la course. Puis je l'ai roulé, puis on était quand même en bonne posture, puis j'ai quand même eu un bon résultat au final. Mais quand
je vais être brûlé en sortant
de
la
ben, il y a eu une couple de moments sur la piste que l'auto faisait des drôles d'affaires. Puis là, tu sais, il y a de quoi mécanique sur l'auto, mais c'est quoi? Tu sais, y a-tu accroché un mur, puis il y a une roue croche? Mais c'était le pauvre Simon qui essayait de manœuvrer.
Ben
mais...
Non, ouais, écoute, j'ai sorti de là, j'étais plus capable de me lever deux bras. J'ai sorti de là, je t'ai dit, j'avais les épaules gonflées, là, ça n'avait pas de bon sens.
Les veines, ses avant-bras, ouais, ils étaient gonflés.
Puis il y a une autre course que je suis en train de penser, une des dernières courses qu'on avait faites full piste aussi à Icar, qui en avait arrivé.
Tu veux dire quoi, full piste?
Ben, dans le fond, parce que là, présentement, on roule à Icar, dans le fond, ils ont disons, séparé la piste en deux.
Okay.
Puis je pense que ça donne un bon show comme ça aussi parce que les spectateurs voient tout ce qui se passe sur la piste. Sinon, quand on faisait la piste complète, ben là, on allait virer beaucoup plus loin autour près des pistes d'aviation aussi. Puis les spectateurs perdaient un bout de l'action. Fait que là, quand on dit, disons, demi-piste ou full piste, Ben c'est ça. C'est soit la piste complète à Icare ou la demi-piste. Mais il y a une autre fois à Icare aussi, on a toujours une gourde dans la voiture parce qu'il fait chaud dans ces autos-là, puis pas à peu près. Là. Puis à un moment donné, je me rappelle, je coursais avec. Je me battais avec Kerry Mix. Kerry Mix, c'était un vieux de la vieille, mais qui était encore très, très rapide, même avant de prendre sa retraite. Puis je me battais avec sa piste. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a tellement de vibrations dans l'auto que mon support de gourde s'est démonté.
Oh boy.
Puis la gourde m'a tombé entre les deux jambes. Fait que là, j'arrivais pour peser ses brakes, puis c'était assez pesant. Hein? Là, j'essayais de peser ses brakes, peser sur le gaz, la gourde se promenait d'un pédale.
Ah, puis tout est attaché.
Attaché ses points de tête.
Fait que là, essaye de faire quelque chose. Là, j'arrivais sur la ligne droite, essaye avec ma jambe de la clutch, dans le fond, d'essayer de la remonter vers moi. De m'emmener la paille, il me passe dans les mains. Là, j'avais le volant de même pour essayer de pencher dans le fond de l'auto. Quand j'ai pogné la paille, je l'ai sorti en tabarnouche le dos, la gourde, mais pas à peu près. Là. Mais Kerry Mix, il me suivait en arrière. Lui, il a mangé la gourde en pleine face. J'avais eu un meeting avec NASCAR à la fin de cette course-là.
Ben, il y avait eu un jaune, je pense, à cause de ça.
Il y avait eu un jaune.
Tout le monde se demandait, dans les estrades, dans les commentateurs, c'est quoi qui se passe? Y a-tu quelqu'un qui a volontairement lancé quelque chose puis il y avait plein d'hypothèses?
Geste antisportif.
Ouais, exactement. Ça avait fini que j'avais eu un papier meeting avec NASCAR dans le trailer après cette course-là parce qu'il se demandait pourquoi j'avais fait ça.
C'est quoi les grandes différences entre le NASCAR ici, NASCAR Canada, puis NASCAR aux États-Unis?
Le NASCAR Canada, c'est une branche, une ramification, dans le fond, de NASCAR US.
Ouais.
Fait que, dans le fond, si on regarde un peu la hiérarchie, disons, tout part de Daytona. Disons, le bureau chef est à Daytona chez NASCAR. Tu as le NASCAR Cup, qui est la grosse série présentement, où est-ce que tu retrouves Kyle Larson, Kyle Busch, tous les plus grands pilotes sont là. Après ça, tu as le NASCAR Xfinity, qui est comme une sous-classe de l'antichambre, dans le fond, du NASCAR Cup. Et tu as une classe de camionnette. Ça, c'est les trois classes.
La camionnette, tu le fais ici?
Je le fais ici, dans une série locale aussi à l'Autodrome Chaudière. Mais vraiment, aux États-Unis, ça, c'est les trois classes de NASCAR directement. Puis après ça, tu as des ramifications, justement. Tu as un NASCAR Mexico, qui a une série au Mexique. Tu as un NASCAR Euro, qui a une série du côté de l'Europe. Et tu as un NASCAR Canada.
OK.
Fait qu'on est géré, justement, par la sanction maître de NASCAR. Mais c'est vraiment une branche de la filière NASCAR au Canada comme telle. Et ils ont leur organisation ici au Canada. Même cette année, on a un nouveau directeur aussi général de la série, qui est Alain Labrosse, qui était justement le propriétaire de l'Autodrome Saint-Eustache, qui maintenant a pris le relais justement à titre de directeur général de la série. Fait que je pense que ça va amener des belles choses aussi pour...
C'est vu d'un bon œil, hein, l'arrivée de...
Oui, écoute, je pense que ça va être intéressant. Puis surtout, il y a comme un engouement, présentement au Québec, il y a comme un engouement pour la série NASCAR canadienne. Il y a des pourparlers, il y a des rumeurs de peut-être accueillir une étape de la série NASCAR Cup. La grosse série viendrait ici au Canada. Nous, ça nous amènerait peut-être aussi à être comme course de soutien. Fait que ça serait intéressant aussi. Fait qu'il y a quand même un gros engouement avec l'arrivée d'Alain Labrosse aussi. Une course supplémentaire au Québec aussi, avec l'Autodrome Montmagny qui s'est ajouté. Fait que ça, je pense que c'est bon. C'est bon pour tout le monde aussi. Ça va être bon pour les commanditaires aussi. Pour nos partenaires, ça va donner de la visibilité à tout le monde aussi. Puis c'est assez surprenant comment que les gens peuvent suivre cette série-là. Au niveau canadien, je te dirais, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, même des gens de l'Ontario aussi qui nous suivent. Puis c'est le fun, tu sais, on bâtit quelque chose aussi avec mes partenaires. J'essaye de mettre mes partenaires en premier plan dans toutes mes activités aussi. Mais tu sais, c'est le fun à un moment donné quand tu as l'engouement des fans aussi qui veulent aller justement encourager des partenaires parce qu'ils sont impliqués en course auto. C'est comme de bâtir une espèce de communauté autour du NASCAR canadien. Puis je pense que ça marche quand même assez bien là, ici au Canada. Puis d'avoir des gars comme Andrew Ranger, Alex Taligani qui sont avec nous autres, les frères du Moulin, ça donne beaucoup, beaucoup de crédibilité à la série. Puis tu sais, moi, c'est tous des gars que je regardais à la base puis que j'admirais beaucoup, beaucoup. Là. C'était comme mes idoles de jeunesse. Puis de pouvoir courser avec eux autres, c'était encore un gros plus pour moi, c'est sûr.
Puis vous autres, dans le fond, Carl et toi, Simon, vous avez couru un contre l'autre un peu, puis vous avez décidé à un moment donné de faire une émission ensemble pour continuer d'avoir du fun ces pistes, puis d'être payé pour le faire aussi.
Bien, celle-là, c'est grâce à Simon directement. Simon, il avait fait la première saison de Propulsion. À ce moment-là, j'étais sur d'autres projets. Puis la dernière émission de l'année de la première saison, le Simon a dit, Carl, il faut que tu viennes, il faut qu'on aille faire des niaiseries ensemble. Fait que c'est là qu'il m'a invité. Je disais, cette fois-là, c'était quoi qu'on conduisait donc? La je pense que tu avais un side-by-side, side, je pense, puis j'avais un camion ou une histoire de même.
Ça se peut, la première de tout. C'est écoute, RDS, j'ai de la misère à...
Non, bon, on a commencé à TVA. TVA. Ouais, on a fait TVA pendant un bout.
Ça a été TVA ça, quand, pendant 4 ans quand même.
C'est vrai.
Ouais. Ouais. Fait que, mais non, écoute, on a fait des tournages assez incroyables, puis on a eu du plaisir, pas à peu près.
Ben, un point tel que, à un moment donné, notre réalisateur, il a été obligé de s'en mêler. Parce qu'on était, entre autres, à Icar. On avait, à ce moment-là, tu avais un Subaru STI LP400. Moi, j'avais un Focus RS. Puis les fils sont touchés. Là. Les deux, encore une fois, deux autos pas vite aux mêmes places. Et là, c'était un dépasse un, l'autre dépasse l'autre. Arrive dépasser, la porte se ferme, on passe à un millimètre. Mais là, c'est un tour, deux tours, cinq tours, 10 tours, 15 tours. Puis... Le réalisateur hurlait dans les radios. Fait que moi, je ferme mon radio. J'ai aucune idée de ce que Simon fait. Mais Simon, il a fermé son radio, lui aussi.
Il est donc maintenant, lui.
Il dérange.
Ah, mais je t'ai dit, c'était la guerre. C'était la guerre. Il y avait juste un mot, mais ça donnait
des... J'avais chaud. Qui on a débarqué, quoi? Moi, j'avais le Focus RS, puis Simon avait le LP400. Ouais. Et on est débarqués les deux, là. Quand t'as le gilet collé 30. Sur le dos, là, mouillé, là. Mais... On n'aurait jamais débarqué tant qu'on manque pas de gaz. Là, maintenant, on sort d'un virage, le réalisateur est en plein milieu du chemin, puis il saute. Puis juste dans ses yeux, il y a comme un regard de pas satisfait de notre comportement.
Mais ça donnait des beaux moments de TV quand même. Ouais,
ça, le fait, show, ça fait des prods qui coûtent cher, par exemple. Ça finit tard.
Ouais, ben, souvent, c'est parce que ben, on va le dire, Johan, qui était justement le producteur.
Qui est un autre chum,
qui est un autre chum aussi. Écoute, parce que Johan, c'est lui qui payait les pneus. Hein. Puis, qui est souvent encore là. Okay. Tu sais un peu comment ça marche, les émissions, c'est souvent aussi une portion, comment dire, une portion partenaire. Okay. Puis des fois, on n'en avait pas tant que ça. Puis le budget de pneus n'était pas si grand non plus. Fait que, wow. Hey, je me rappelle à Montmagny, je sais pas si tu te rappelles, Carl, avec le L4 manuel qu'il nous avait prêté, puis la Mustang Bolide.
Ouais, c'était pas élégant.
C'était pas là et tout, les deux films, ça avait touché un peu. Puis... en tout cas, ça a fini que l'auto, il fallait qu'il... Moi, dans le fond, je conduisais le Charger L4, qui était manuel.
Ah oui, on se battait pour avoir ces machines-là. Là, c'est
puis,
tellement le fun.
Sarcastique.
Johan nous avait dit avant le show, il disait, écoutez, les gars, là, on n'a pas de budget de pneus, puis il faut que je remonte à Montréal avec l'auto. Fait que là, t'sais, allez-y, easy. Non, c'est la pire affaire à nous dire. Fait que ça a fini que je faisais le circuit au complet avec ben de la boucane des ailes en arrière. Puis ça a fini qu'encore une fois, il y avait les deux bras dans les airs. Puis là, il était fâché pour de vrai. Là, il me criait après, mais il était sérieux. Oh,
wow. Mais c'est vrai, c'est la seule fois que les fils sont touchés un peu après. Ah, il était vraiment pas content. Au début, je pensais que... qui trouvait ça drôle, mais là, j'ai fini par trouver que c'était long, la joke.
Parce qu'après ça, ils ont monté à Montréal, puis ils entendaient la broche taper dans les ailes. C'était long qui remontait. Heureusement, c'était pas Marcel qui nous avait prêté l'auto cette fois-là.
C'est ça qui est fou au Québec. Le gars, il reprend le char après, puis il le ramène, tu sais. Ailleurs, ça arrive d'un 53 pieds livré quasiment par parachute, toi.
Ben, puis... dans le temps, j'avais parlé qu'Andrew Connery-Pickard, qui était coproducteur de Top Gear USA, puis il m'avait demandé dans le temps d'équiper pour rouler, tu sais, comment ça marche, les tournages, tu as combien de temps de pratique. Parce qu'il parle français, fait qu'il avait déjà écouté les émissions. Fait que tu sais, pour avoir ces shots-là, ben, je dis, c'est 4-5 tours. Tu commences à 4-5 tours, ben, je dis, Chris, il faut que je ramène les pneus puis les brakes. Fait que je fais à peu près 4-5 tours, 6-7, ça va bien, mais that's it. Il dit, OK, nous autres, avec Tanner Foss, on a une semaine de préparation, on a à peu près 20-24 pneus. Non, puis quand on en manque, il en recommande, on joue ses pressions, on place nos caméras, OK, là, tu vas nous donner tel shot dans ce virage-là, on set up l'auto. Je disais, nous autres, on sort des pits, puis...
c'est là, c'est go, puis amenez-nous des belles shots. Puis, mais oui. Ça a fait des belles images, puis on a quand même beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est les images, justement, avec la c'est un Charger que Marcel nous avait prêté, oui. Duclos aussi, cette fois-là. Puis mon NASCAR aussi, ça restait des images d'anthologie.
Ouais,
aussi,
avec
là.
Un Hellcat
ça de travers
body
en
régulier.
Avant de moi, ça n'avait pas de bon sens. Là. C'était de toute beauté. Là.
J'avais pas de quoi, avec un avion, un truc qui
va dans le générique. On l'a dans le générique d'émission. C'est Simon qui conduisait un BM convertible. Puis on devait faire des shots avec un avion. On savait pas. Honnêtement, c'était un tournage redneck typique.
J'avais
déjà
rencontré
Franck, faisait.
Moi, avant, à l'aéroport, pas loin, ici à Belleuil, dans le fond. Puis j'avais été le voir, puis j'avais vu un peu que c'était pas un gars stressé trop, puis qui était capable de faire des miracles avec un avion. Fait qu'on l'avait invité avec nous autres à un tournage. Mais je pensais jamais qu'on allait pousser la note aussi fort que ça. Là.
De base, ce qui était supposé, c'est qu'il fait des folies en avion, puis Simon et moi, on fait des folies à terre, puis c'était ça le concept.
Images, on prend les images les deux ensemble.
Dans le meeting du matin, tu sais, de sécurité puis de jasage, là, je dis, Franck, toi, descendre, puis aller te coller sur nous autres, puis que je touche à l'aile de l'avion, Franck fait, Et là, tout le monde part à rire. Fait que là, à la fin du meeting, je dis, on n'a pas seté comment on va faire pour l'avion. L'avion, le Franck, on le fait. Fait que finalement, on l'a fait. T'sais, moi, j'étais debout en pied de bas parce que je voulais pas maganer le siège du BM. Fait que j'étais en pied de bas, c'est banc en cuir. Fait
pas
que
attaché.
Debout, on
pas
roule attaché. 140, 160. Je me tiens comme je peux me tenir, mais c'est Simon qui conduit, je suis safe. T'sais, Simon, je confierais ma vie, ma soeur,
il
ma mère.
Ben, il arrive de quoi, t'envol?
Ah non, je peux pas me tenir. Puis je glisse sur le banc constamment.
Mais en tout cas, avec Franck, on avait une bonne communication. Lui, il avait un radio dans l'avion. Moi, j'avais un radio dans l'auto. On se parlait, on essayait de timer nos vitesses. Puis là, lui, il se rapprochait sur le côté. Mais on l'a fait une couple de fois, mais à y repenser, ça aurait pu être dangereux.
On a reçu Michel Barrette dans les dernières émissions.
On a tourné, puis c'était dans l'après-midi. Puis là, ils nous ont expliqué après que la chaleur de l'asphalte, puis t'as de la forêt sur le côté, fait une espèce de turbulence. Puis il y a une shot qui a descendu l'aile très près du quarter panel, puis de toucher à terre. Puis l'a relevé. Mais tu sais, ça aurait pu être moi qui se fait accrocher, ça aurait pu être la tête à Simon qui se fait accrocher.
J'avais l'hélice. Puis je me rappelle quand t'as touché à l'avion, après ça, tu tapais dans le dos, puis tu tries. Je pense que j'avais jamais vu Carl de main. Je me sens revivre. Il criait.
Le bout des doigts me picotait tellement que j'avais de l'adrénaline, puis j'étais content. C'était fou, là.
Ah oui, fait que là, toi, ce jour-là, t'as senti une seule fois dans ta vie ce que Stéphane Lefebvre sent à tous les jours.
Non, il sent un pu. Steph, il est immunisé. mais sans faire, ça aurait été n'importe qui d'autre que Simon, je ne l'aurais pas fait. Mais okay. Avec Simon qui conduit, je sais qu'il regarde loin, il a une vision 360 hallucinante, il a des bonnes mains. Je savais qu'il n'y aurait jamais un petit coup ou quoi que ce soit. Puis, si l'avion nous avait touché, Simon il n'aurait pas paniqué et donné un coup de volant pour que moi je débarque.
Ouais, j'avais un job facile pareil là-dedans.
Pas de temps.
Mais Franck, dans l'avion, je vais dire que. Moi, en tout cas, ce gars-là m'a tellement impressionné aussi. Puis de le voir un peu, c'est le genre de gars un peu nonchalant, mais quand il embarque dans son avion, là, il est droit comme une barre. Mm-hmm. Pis, c'est la vie de bien du monde, puis sa vie aussi, entre les mains aussi. Là, il fait des choses. Je sais pas si tu t'en rappelles, quand on faisait l'intro, quand il volait.
Je me rappelle la première.
Les bloopers, j'avais passé à TVA, ça, c'était bloopers-là.
Parce que nous autres, on fait l'intro, on a l'auto, puis on est de dos à l'avion qui s'en vient. Puis là, on essaye de taper l'intro à perfection pour que quand on finit le dernier mot, l'avion nous rase au-dessus de la tête. Fait que je te laisse.
Oui, j'essayais de me concentrer pour faire mon introduction comme jour, mais il s'en venait tellement proche d'une autre. J'entendais s'en venir, mais il a passé tellement bas là, que moi, de m'emmener, c'était plus naturel.
Il n'y avait plus rien.
Carl, il était encore en train de parler, puis genre de me relancer pour que j'y envoie quelque chose. Moi, je t'ai rendu couché à plat ventre à côté de lui. Il me regarde.
C'était pas une joke,
là. Ah non, mais tu fais là. Alors, et moi, j'ai dit, il va nous fesser en arrière de la tête avec son avion, ça n'a pas de bon sens. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me sacrer à plat ventre.
Carl a dit, ouais, j'irai pas en guerre avec Simon.
Non.
On va vivre mieux.
Ah, et puis écoute, c'est ça, Woody, ça me prenait mon petit champ, je faisais des intros, extros. Fait que là, après, d'avoir un avion qui s'en venait en arrière de moi, ben,
comme c'est trop.
Je le dis un peu aussi, Carl, quand même. Tu sais, moi, à base, je suis pas un gars de TV. Là. J'ai tombé à TV un peu par accident, pareil. Puis j'étais chanceux parce que Carl était là pour me coacher, puis pas à peu près. Là. Mais tu sais, il en a vu des comics quand même, avec moi aussi, puis des bloopers, il y en a eu pas mal quand même. Ça en était un drôle.
Là, maintenant, toi, t'es aussi instructeur, si j'ai bien vu.
Ouais, ben.
Ça représente combien de pourcentage de. Tu sais, t'es occupé à quel point en tant que.
Ben, écoute, moi, j'ai comme essayé de faire un gros mix de plein de choses ensemble parce que à la base, je suis un gars d'objectifs, mais je me suis tout le temps dit, tu sais, j'essaie d'avoir des objectifs qui étaient réalisables aussi. Puis là, de m'emmener, j'ai vu c'était quoi la game du sport auto. C'est sûr que le sport auto, c'est une game d'argent. Puis vivre du sport auto, écoute, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont capables de vivre du sport auto au Canada. Il y en a quelques-uns, mais il faut vraiment se démarquer. Puis faut vraiment faire une job de PR extraordinaire puis d'avoir beaucoup, beaucoup de partenaires. C'est pas facile. Fait que là, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait découler un petit peu de ma passion? Fait que là, c'est ça qui m'a amené aussi à essayer de me trouver un métier qui était connexe à la course automobile. Puis de fil en aiguille, écoute, j'ai rencontré des gens qui travaillaient pour des manufacturiers automobiles. Fait qu'au début, j'ai commencé à travailler pour... au début, je travaillais pour Mini Cooper, les premiers contrats que j'ai eus. J'ai fait des contrats avec Ford aussi. À titre d'instructeur, quand les gens soit allaient essayer des véhicules en concessionnaire automobile ou des événements sur circuit. Mais écoute, j'ai vraiment commencé la portion, disons, instructeur sur circuit avec le manufacturier Audi. Okay. Y a un de mes amis, là, justement. Ben, j'avais travaillé beaucoup avec Antoine Bessette dans le temps, avec qui je travaillais encore un petit peu aujourd'hui, d'ailleurs. Puis Antoine m'avait introduit avec Audi dans ces années-là. Puis ça m'avait amené justement à faire des événements sur circuit comme à Tremblant quand ils font le Audi Driving Experience. Il y avait des bolides assez trippants à conduire. Il y a encore des bolides le fun à conduire Audi, mais tu sais, à l'époque, écoute, on roulait des RS7, des R8, des TTRS, des RS3 sur circuit. Les clients venaient justement, on faisait ça soit au circuit de Mossport en Ontario, au circuit de Mont-Tremblant. Aussi, prends pas ça comme ça. Aussi, écoute, du côté de l'île de Vancouver, qui a un circuit là-bas aussi. Fait que j'ai fait quand même pas mal d'événements sur circuit aussi. Avec Audi, avec le groupe Volkswagen. Puis là, le groupe Volkswagen, ça m'a amené de travailler aussi pour Lamborghini. Fait que ça, c'est quand même... Ben, c'est ça. Écoute, ça c'est une portion le fun que je fais encore aussi là, depuis, je dirais, un 6-7 ans. On fait un événement sur un lac qui est à l'hôtel Sakakomi.
Oui.
Simon, Manu, les photos.
Des Lambeaux. Oh, si vous avez des photos?
Oui, des Lambeaux, ça drift, ça neige.
Ouais, ben on s'amuse, on s'amuse pas à peu près avec ces voitures-là. Avec la Sterrato, justement, que vous voyez à l'écran. Là, la rouge, celle-là, elle vient d'être prise, ça fait une couple de semaines, cette photo-là. C'est des voitures incroyables à conduire. Et puis écoute, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des programmes de conduite. Où est-ce qu'on peut conduire des véhicules pour de vrai? Ouais. Je travaille avec des gens extraordinaires quand même, puis ça me permet aussi de pousser ces voitures-là puis d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir avec. Fait que ça, c'est la portion le fun. Puis, ben écoute, je m'amuse beaucoup dans l'automobile. Puis c'est ça, j'ai comme plein de métiers connexes à l'automobile aussi. Puis ça m'amène, justement, là, c'est ça, être capable d'en vivre. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Puis ben, ça me permet, justement, d'exploiter ma passion au maximum.
En termes de voitures ou de collection maintenant personnelle, on n'a pas trop parlé. On n'a pas parlé, en fait.
Ben, Simon, c'est drôle parce que c'est un maniaque d'auto, mais contrairement, comme Pat, il aime pas ça, il revende. Mais
ouais, non,
tout est vraiment extrême dans ton désir de pas en vendre.
Ouais. Simon est bien plus extrême que moi. Parce que moi, tu comprends que ma passion était subventionnée par mon entreprise, puis le cash flow, puis le roulant fait en sorte que j'étais obligé de... C'est une relation amoureuse, un peu comme tu parlais tantôt. Mais moi, j'étais obligé de m'en séparer de certaines. D'abord, pour l'espace. Deuxièmement, pour l'argent. Mais Simon, c'est mon idole. Il garde tout. C'est pas compliqué, ça. Simon, tu sais, c'est pas comme Michel. Michel Barrette, il est venu dans les émissions de passé. Il dit, moi, j'ai 22 charges de ménage. Il va falloir que j'en vende un peu. Non, Simon, il va bâtir une autre grange. C'est un tailleur. Il va appeler son beau-frère s'il peut pas le dépanner, mettre des chars là. C'est impossible qu'il en vende. Là,
c'est ça. C'est sûr que j'en ai pas vendu beaucoup. Mais tu sais, au fil du temps, écoute, j'ai toujours gardé mes voitures. Et j'en ai vendu quelques-unes pareilles, là, mais tu sais, juste pour te donner une idée, ma première voiture, je l'ai encore. Mes deux premières voitures, dans le fond, j'avais acheté un lot, dans le fond, à l'époque. Là, j'avais acheté une Honda Prelude 86, spéciale édition, avec un petit 2 litres dans ces années-là. Puis ça, c'était mon voisin Mario, dans le fond, qui avait ces voitures-là. Puis écoute,
mais à cette époque-là, c'était-tu une voiture, ça?
Ben oui. Mais tu sais,
c'était comme...
Je vais te dire que c'est un auto qui avait déjà du millage pas mal.
C'était
parce
son
que
premier
là...
char aussi, tu sais. Oui. Ça, c'était à corps, là, mais
Simon,
c'est,
on a des photos, d'ailleurs, de toutes la Prelude? Les voitures.
Simon, c'est pas une faire un
La Prelude, je ne sais pas si on en a une, mais j'ai encore justement...
T'as ton Camaro en bas à gauche, t'as ta 300.
Mon Camaro, ma 300. Ça, c'est deux voitures que j'ai construites, dans le fond. La Camaro, c'est là qu'on voit à gauche dans le cadre de l'émission Propulsion. On avait fait un projet avec cette voiture-là.
Resto mode,
avec un LS manuel 6 vitesses, injection. Ça, c'est une belle voiture. C'est une de mes belles. La 300, c'est mon projet de pandémie.
Ouais, c'est ça.
C'était mon projet de pandémie. À un moment donné, là, je me cherchais des projets pas à peu près pendant la pandémie. Fait que j'ai fait justement la Chrysler 300. Puis écoute, à la base, là, c'est une voiture que j'avais payé 3 000$. Cette voiture.
Oh, ça paraît pas à l'œil, en tout cas.
Étant en dessous d'un arbre dans un contré lointain, pas loin de chez nous, qui s'appelle Saint-Athanase, dans le fond d'un rang, dans une raille du dimanche, justement, qu'on prend souvent, ma blonde puis mon petit gars ensemble, on avait spoté cette voiture-là. Puis j'avais fait un offre. Le gars voulait pas trop m'avendre, puis à un moment donné, il m'a rappelé, il dit, regarde, viens la chercher, puis je l'ai rebâti au complet aussi. La droite, c'est mon Chevrolet Bel Air 66, mais ça, c'est ma première voiture. Ça, je te dirais que, ma première voiture ancienne, disons. Okay. C'est vraiment avec cette voiture-là que j'ai commencé à tomber en amour avec les voitures anciennes. Après ça, on voit ma Porsche 944 aussi. 944S avec le 16 valves dedans.
Ben oui.
Ils sont quand même assez rares, pareil. Tout l'intérieur de la turbo. C'est une belle auto. C'est une super belle auto aussi.
Ce qui est fascinant, Simon, en plus, c'est ça. C'est qu'il y a une histoire avec chaque char. Il est allé chercher quelque part. Puis c'est jamais dans un état de collection parfait. C'est des drivers. Il est prêt. Ouais. Il sort. Il l'utilise. Puis là, il est comme, ah, oh, bon, ça fait 5 ans que j'ai pas pris. Là. OK, on a dû prendre un entretien. Tune-up complet. Rentre ça dans le garage. La mécanique. Ben ça, c'est parce que tu peux mettre l'autre stripe, Simon. Parce que cette semaine, il y en a justement une qui est arrivée là-dessus. Ça, c'est ça. À gauche, la Mustang Fox Body rouge. 5.0. Qui sort en plein hiver. Tiens, c'est l'heure de prendre ça, toi. Fait que tu peux parle-nous de
ouais, ça. Mais... Écoute, moi, c'est sûr qu'à la base, un auto, c'est fait pour rouler. Fait que oui, j'ai une collection de voitures, mais tu sais, on se mentira pas, c'est pas toutes des voitures qui sont impeccables. Moi, c'est des voitures que j'aime rouler. La seule voiture que je peux dire que j'ai à peu près le meilleur état, c'est ma Mustang Bolide. J'avais acheté une Bolide 2001, puis la voiture a 5000 km. La voiture est neuve. Mais je pourrais te dire que c'est à peu près la seule voiture que je me sers pas vraiment parce que j'ai peur de la briser.
Ça, c'est la verte, là?
Oui,
exactement. Je pense qu'on l'a aussi,
sinon. Ah ouais, on l'a peut-être celle-là aussi. Oui, celle-là qu'on voit justement ici. Mais écoute, cette voiture-là
est neuve. Au milieu, on la voit au centre.
Ouais, ouais. Au centre. Cette voiture-là est flambant neuve. Elle a 5000 km, puis c'est une voiture que j'avais achetée d'un collectionneur de Acton Vale.
OK.
Mais écoute, j'assors un peu, mais c'est pas une voiture que je profite tant que ça. Puis c'est un peu. C'est à peu près la seule voiture que justement, j'ai moins de passion.
Ça fait mal au cœur, peut-être, parce que t'apprends pas.
Ben, c'est ça. Puis j'ai comme peur de la briser tout le temps. Tu sais, moi, j'aime ça. On part.
T'es comme entre les deux avec celle-là.
Ben, c'est ça. Puis on part. Je pars avec ma blonde, mon petit gars, mon petit
gars. Ça me fait plaisir de te l'acheter, Simon.
Ah, ça serait peut-être la seule qui pourrait être avant. Ça serait peut-être la seule qui pourrait être avant.
Hey, mais ça serait le fun de faire ça. Ça serait une première mondiale, négocier un char live puis assister à la vente live dans un podcast.
C'est le début d'un encan de quelque chose, hein?
Oui.
Ça va être Barrett Denis. Est-ce que Barrett Denis?
Barrette,
ça serait
bon. Yaya, qui dit mieux.
Moi, l'histoire que j'aime de ces chars, c'est le Monte Carlo sans farce.
Ouais, c'est sûr.
Parce qu'avec le trip que t'as fait avec Ellie puis tout, là, ben, Simon, tu peux remonter la dernière stripe, la photo à gauche, le char blanc.
Ouais, non, c'est sûr que ça, c'est mon petit gars qu'on voit là. Puis écoute, c'était assez drôle. Ça, j'avoue que c'était quand même assez drôle. Puis moi, écoute, je suis rendu un fan d'aller à Old Orchard à force de parler avec Michel, de lire son livre. Puis écoute, on fait toujours un voyage familial à Old Orchard à chaque année. Puis ma voiture de vacances, ben c'est une Monte Carlo SS 86. Okay. Cette voiture-là est en très, très bonne condition. Elle est vraiment en bonne condition. C'est une voiture qui avait déjà été restaurée sur une rotisserie complète. Elle est en super bon état, mais j'adore ça la rouler quand même.
Fait que tu vas au Larcher de à Old
Exactement. Puis écoute, il arrive à peu près toujours quelque chose quand même avec l'auto. T'sais, j'essaie de prendre des précautions. Avant de partir, je me fais toujours un petit coffre d'outils avec des outils de base. Puis j'essaie de mettre ça safe pour tout le monde parce que quand même, j'embarque mon petit gars et ma blonde dans l'auto. Puis écoute, cette année-là, on voyait la photo justement avec le radiateur en avant de l'auto. Et c'était assez drôle en plus parce que Michel était là. Michel, il était à Boston. Puis il m'avait appelé. Il y a une place qui s'appelle le Bentley Saloon. Puis là-bas, je sais pas si tu as déjà été là, Carl.
Ben Michel m'a fait faire pas mal le tour de tout ce qu'il y avait là-bas.
À côté de Old Orchard. Puis là, Michel, il me dit « Hey, il dit mercredi soir, il faut qu'on aille là. Hein. » Il dit « On va aller là. » Puis il dit « Ouais, il y a une exposition de char. Monte-là avec ton Carlo, puis je vais t'en rejoindre. J'étais à Boston. » Fait que là, on revenait de la beach le mercredi soir, le mercredi en fin de journée, avec l'auto. Puis le fait d'être mécanicien, t'es toujours suspect à des odeurs, puis à des petits bruits. Puis là, on était à une lumière, puis là, il fait chaud. Puis là, il me semble que ça sent le Prestone un peu. Puis là, pas trop sûr. Puis... Fait que là, on arrive dans le cours du Airbnb. On avait loué une maison là-bas. Puis là, j'ouvre le capot. T'sais. J'avais instauré à mon petit gars que quand on revient, il faut faire une inspection journalière. Puis essayer de regarder si toutes les pièces sont là, puis si tout est correct. Puis là, je commence à voir que justement, le radiateur, il commençait à couler juste un petit peu dans le crimpage du radiateur. Une petite goutte. Et ça veut dire qu'il va se mettre à couler pas mal plus tard. Hein. Fait que là, je regarde ça. Puis là, en plus, il se met à mouiller. Michel me rappelle, « Ah, on peut pas aller au Bentley Saloon. On ira l'année prochaine. » Fait que j'y parle même pas de ça, que je suis pas loin d'être en panne avec mon auto. Fait que là, je pars tout de suite à côté du Airbnb. Je te dirais à peu près un kilomètre. Il y avait un O'Leary, je pense, en tout cas, un autopart là-bas. Fait que là, j'arrive, je vais voir le gars là-bas. Je dis, « Écoute, un radiateur de Monte Carlo 86. »« Ah, je l'ai pas ici, mais je peux l'avoir demain matin à 7h30. » Tu sais, là-bas, des pièces de Monte Carlo, une voiture américaine de même, il y en a partout. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne voiture partir en road trip aussi. Fait que j'ai dit, « Parfait. » Fait que là, on repart à pied. Il y avait un garage pas loin aussi. Fait que là, je vais voir le gars au garage. Je dis, écoute, penses-tu que demain matin, je pourrais venir, puis au pire, t'emprunter des outils un peu, puis changer mon radiateur? Quoi, mais regarde, tu as ton radiateur, tu fous. Puis c'est, d'habitude, ils sont bien, bien accueillants, là, mais lui, d'après moi, il n'était pas dans une bonne journée. Fait qu'en tout cas, il a décidé qu'il ne m'aiderait pas, puis il était pressé. Fait que ça finit qu'on se lève le lendemain matin. Je réveille mon petit gars, je dis là, on a une mission aujourd'hui, on va chercher notre radiateur à 7h30, puis on le change direct dans la cour ici. Fait que là, j'avais amené un coffre d'outils, mais tu sais, avec des outils bien de base, là, un Westcott, puis des cutters. Puis,
puis t'as pas une tub à Prestone non plus,
non,
tu traînes dans ton coffre.
J'ai acheté une tub à Prestone là-bas. Ah. Fait que là, j'achète une tub à Prestone, on revient avec le radiateur sur l'épaule, mon petit gars, la tub à Prestone, dans le milieu du chemin avec ça. Là, on commence à démonter ça, mais c'est pas vraiment compliqué. C'est pas trop compliqué à changer quand même. Fait que là, on commence à purger de radiateur. Le pire, c'était les hausses de couleur de la transmission, qui étaient un peu rouillées, mais ça s'est quand même bien démontré. Fait que là, on est en train de changer ça dans le stationnement, mais le propriétaire du Airbnb, lui, il restait, tu sais, c'était comme une maison split en deux. Fait que lui, je l'avais jamais vu encore, là. Puis là, lui, il sort porter ses poubelles au chemin. Puis là, il nous regarde, il dit « Ça va? » Sa cour était pleine d'outils, de radiateurs. Il y avait une coulisse de Prestone en dessous de l'auto. C'était pas si chic que ça, pareil, même si on avait une tub. Fait que là, je dis, oh oui, j'ai dit, écoute, dans 10 minutes, on est reparti. Fait qu'effectivement, on a rempli ça, on a rempli ça d'eau, puis de Prestone. Ma blonde charriait de l'eau à partir de la toilette en haut pour être capable de remplir l'auto. Fait que, écoute, on est parti, puis on a fait notre périple comme ça complet. Mais on a retourné en plus cette année, on a retourné à Old Orchard avec la même auto parce que c'est
rituel.
C'est l'auto de prédilection.
Oh, ça roule bien.
Puis là, j'ai dit à ma blonde, écoute, là, mercredi soir, on va voir qu'est-ce que Michel nous a parlé. On s'en va au
Bentley Saloon. Ouais.
Fait que là, le mercredi soir, tout va bien. On part là, sur l'heure du souper. On s'en va là-bas. J'arrive dans le cours. Hey, effectivement, il y a des belles autos là, mais pas à peu près. Là. Le parking, il est plein de chars. Il y a des belles voitures à peu près toutes les années. Je vous mens pas, là. J'arrive, je recule l'auto entre deux autres voitures. Là. Il y avait une Camaro SS d'un bord, puis je pense qu'il y avait une Chevelle de l'autre côté. Je mets l'auto sur le parc. En mettant l'auto sur le parc, clau, le shifter me reste dans les mains. Non. Direct. Ah, ouais. Là, je regarde ma blonde. Et là, on est dans la marde. J'avais le shifter direct dans les mains. Là j'essayais de passer comment j'allais me réparer. Ça devient un défi mécanique aussi, là. Fait que là, je débarque l'auto. Là, je pense à ça. J'ai un jack dans l'auto. J'ai un coffre d'outils. Fait que là, il y a une couple de gars qui viennent me voir. « Hey, t'as un beau char. »«
Un beau char,
j'ai un beau char. » Exactement.
Aussi.
Là, les gars partout à rire. « Tabarnak, qu'est-ce qui se passe là? » Là, j'ai dit « Faut que je me répare, puis faut que je retourne chez nous avec ça. » Fait que là, ils se mettent tous avec moi sur l'auto, jack l'auto. Il y a un gars qui rentre en dessous du char. Moi, j'essayais de jouer avec qu'est-ce qui restait du shifter, pas capable de rien faire pendant.
Il a cassé carrément le bras.
Il a complètement cassé. Ouais. Il a complètement cassé. Fait que là, ça finit qu'il y a un gars qui rentre en dessous, il prend l'auto voulait plus partir parce qu'il était pas au parc. Il était pas bien rentré sur le parc. Le gars le met au neutre. Ah ouais, il startait le char. Fait que là, je starte l'auto. L'auto à part. Fait que là, il sort de là, il dit « Mais allez sur le drive! » Là, ça a fini que le gars, je pense qu'il était comme en dessous, il a pris un tournevis, il l'a mis sur le drive, mais l'auto était jacké pareil. Fait que là, il est ressorti de l'auto. Moi, je tenais les breaks. Les gars ont mis le jack dans la valise de l'auto. Puis on a rembarqué pour être reparti. Puis on est descendu jusqu'à la maison. Mais là, moi, je pensais...
Tu vas pas le remettre sur le parc, là?
Ben non, mais là, j'essayais de penser. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, j'ai dit, c'est bien beau. C'est ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire pour remonter?
C'est une break.
Mais finalement, c'était pas si compliqué que ça. J'y ai juste pensé après. J'étais comme juste un peu trop...
Tu fais juste pas de stationner une place. T'es obligé de reculer
non, même
aussi.
Pas. Même pas. J'avais une paire de vice grip dans l'auto. Fait que là, finalement, quand on est arrivé dans la cour de l'autre maison qu'on avait louée, j'ai tout démonté la console en dedans. Puis là, j'ai été capable, à partir, une fois que la console était démontée, d'aller chercher le fameux wire, le fameux câble de transmission.
Le wire!
Le wire!
Ça, c'est une nouvelle expression.
D'aller chercher le wire avec les vice grips. Le wire avec les vice grips. Fait que ça a fini que, effectivement, mon levier de vitesse dans l'auto, à partir de ce moment-là, ben, c'est devenu une paire de vice grips. Puis c'est encore là présentement, puis l'auto va très bien.
Charles, si tu penses que Simon est redneck, demande-lui donc comment est-ce qu'il finance ses saisons de course. Avec ses parties à la maison.
T'as vu des parties parties.
Moi, j'ai vu des vidéos, mais
ça, c'est redneck.
Mais là, vous allez me faire passer pour un redneck. C'est tout le temps. Ça suit toujours de même.
C'est redneck. Moi, j'ai pas utilisé ça.
Personne ne va le faire passer pour
un peut-être un fond.
C'est ça.
OK, raconte.
Ben, dans le fond, moi, la maison que j'ai achetée, j'ai chez nous, dans mon coin, les maisons valaient vraiment pas cher. J'étais chanceux. J'ai acheté ma maison quand j'avais 20 ans. Puis la maison, quand je l'ai achetée, c'était un de mes amis. Puis on avait commencé à faire dans la cour de cette maison-là, qu'est-ce qu'on appelait un party chaud de boucan. Fait que pour me financer...
Ben, c'est pas l'idée, man.
Non, mais pour au début, pour me financer, ben, ça a fini que j'amenais mon auto de course, mes chums débarquaient avec leur char. Il y avait justement une ancienne route qui passait dans la cour de cette maison-là. Asphaltée, tout. Fait qu'il y a une strip d'asphalte parfaite pour faire un show de boucan. Fait qu'on a commencé quand on était 30, même pas, au début, 20-25 chums à se faire un petit party un dimanche après-midi au début. Puis là, on a dit, ah, c'est le fun, finalement, l'année prochaine, on va essayer de faire de quoi de mieux que ça. Fait que là, on a commencé à faire de la publicité. Puis là, moi, pour financer, dans le fond, mes saisons de course, j'avais un deal avec, disons, la brasserie Molson. Là, je prenais un permis de boisson. On a commencé à prendre. On a commencé à prendre un coup. Il y a du monde qui prenait un coup aussi. Là. Mais on a commencé justement à faire un party qui a évolué quand même pas mal, mais qui a évolué tellement au point qu'à un moment donné, écoute, la dernière édition que j'ai faite chez nous, il y avait 800 personnes dans le cours.
Non, c'était incroyable.
Fait que ça commençait à être intense un peu. Là. Ça commençait à être.
C'est pas 800 personnes qui font des shows de boucan. Là.
Non, écoute, il y avait 50-60 personnes quand même. Là,
qui faisaient des shows de boucan.
Oui, qui faisaient des shows de boucan. Puis là, après ça, je me suis affilié justement avec des gars, justement, un club de sport motorisé d'un village à côté de chez nous. Puis là, ça a monté encore à plus grande échelle. Là, on a amené un chapiteau. Puis Carl était venu. On avait tourné une émission de télé, justement. Au party, là.
C'était un méga show, là. C'était vraiment impressionnant. Puis le plus drôle, vous avez vu les photos de son superbe Camaro 69 noir là, qui est resté au mode. Fait que Simon, rendu à la fin du party, un des features, tout le temps Simon qui va faire quelque chose. Il dit « Embarque avec moi, man, ça va être drôle avec l'émission, on a les caméras dans l'auto. » Simon, il se met à péter un show de boucan, mais il se donne, là. Il a de la boucane. À un moment donné, Simon, le feu est pris.
Il était pris solide, en plus.
Il a eu un retour de gaz en arrière, mais le feu a vraiment pogné. Mais moi, je le sais, là, parce qu'on a monté chacun une auto toute cette année-là, puis c'est sa Camaro qui a monté pour l'émission, puis l'auto, elle vient d'être finie, là. J'ai écrit, le char ne peut pas brûler ici, ça n'a pas de bon sens. Mais là, je tape sur l'épaule à Simon. Puis, hey, le Simon, il y a du fun.
Oui, mais demandez, j'ai vu une boule de feu monter dans le rétroviseur en arrière. Puis, effectivement, le feu était pris solide. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, puis, je me rappelais que j'avais bricolé aussi à tank à gaz pas mal dans ce coin-là. Fait que là, à un moment donné, ça a bien été. Mais c'est...
Moi, j'imaginais juste le pauvre Camaro, quand tout a brûlé, puis tu n'as plus de pneus, rien, puis t'es ses rimes, là, tout croche.
Oh my God.
Mais finalement, Simon s'est organisé, il y a des pompiers, il y a tout. Là.
Puis j'avais une exposition en plus. Après ça, il fallait que je rentre la voiture pour Castrol au Palais des Congrès. Comme 3-4 jours après. Fait que là, ça aurait été plate de repeinturer un quarter au complet parce que l'auto avait brûlé. Mais non, finalement.
Ça en est sorti.
Ça a bien été.
Wow. OK, ouais. Ben, on est-tu rendu entre 4 roues?
Je pense que oui.
Entre 4 roues, moi, Simon! Ça, c'est assez simple. C'est des questions à rafale. Okay. Puis tu y réponds. Si tu as une réponse, si tu n'en as pas, tu dis passe.
OK.
Simple même, Simon. Fait que ta meilleure auto?
Ma meilleure auto? Écoute, une demi-route.
De route, là.
Ma voiture préférée, je te dirais, ma meilleure auto, je te dirais mon Monte Carlo. C'est plate à dire, mais c'est une voiture que j'adore.
T'as tellement mis des heures dessus.
Ouais, non, j'ai pas mis d'heures tant que ça, mais elle va bien dans tous les sens du terme, cette voiture-là. C'est une voiture que j'aime beaucoup parmi les autres, là, mais okay. Ouais, je pense que c'est une de mes bonnes, en tout cas. Là.
Ta plus drôle expérience sur la route?
Oui, ma plus drôle expérience. Écoute, il y en a une couple. Il y en a une couple. J'essaie de penser des affaires comiques. Ouais, j'ai une couple d'histoires assez comiques, pareil, par exemple.
C'est celle qui te vient en premier?
Ben, j'ai déjà vu moi, un de mes chums rentrer de reculons sur le boulevard, ben, sur l'autoroute Laurentien, en pleine heure de pointe, sur l'heure du dîner. Ça, c'était assez drôle.
On sait-tu pourquoi?
Ah, ouais. Ben, parce que ça c'était comique. Ça. Je le nommerai pas, mais peut-être qu'il va se reconnaître. C'est un gars que j'ai pas vu, ça fait longtemps, à Mourouzi, parce que j'avais été faire un cours aussi comme mécanicien auto. Puis là, il y a plein de jeunes coqs dans ces cours-là qui se montent des voitures. Puis c'est un gars-là, lui, c'était toujours monté des Civics.
Okay.
Fait qu'il savait monter un Civic dans le temps. C'était un des premiers gars à Québec à avoir mis un H22 dans une Civic, était un swap pas trop régulier où les gens connaissent ça. Parce que c'était un gars de Honda. Mais là, un matin, on le voit arriver avec un Mustang 5 litres. Genre un GT, comme que j'ai un GT 92. Que tabarnouche, il est tombé sur la tête avec son Mustang. Là, quand ça l'écœurait, t'es pas capable de conduire ça, toi, un char de même, un Mustang, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, les gars, ça va aller dîner à midi, vous allez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec cet auto-là. Oui, puis... Fait qu'on allait toujours manger à Québec sur le boulevard, sur le boulevard Amel. Fait que là, sur l'heure du dîner, ben moi, je pars. Et moi, dans ce temps-là, ma voiture d'hiver, tu sais, c'était comme l'automne tard. Mais moi, la voiture d'hiver que j'avais, encore là, c'était un auto assez particulière, mais c'était un Pontiac Firebird. Avec un 2.8, pas la même avec laquelle j'avais commencé à courser, mais c'est une voiture que j'aimais. Fait que j'en avais racheté une pour l'hiver, puis j'étais capable de mettre ça de côté puis de déraper bien gros avec cette voiture-là. Fait que je m'amusais avec pas mal, mais ça avait pas de moteur pantoute. Fait que là, moi, je pars en arrière, justement, de mon chum avec sa Mustang. Puis on sort du stationnement de l'école de mécanique. Puis il y avait un virage bien, bien serré qui venait nous porter au boulevard Laurentien. Puis moi, j'étais en arrière, puis j'étais partout dans ses rétroviseurs, d'un côté comme de l'autre, puis le char de travers, j'étais avec mon chum Pat, puis on riait, puis on avait du fun dans le char. Puis là, j'essayais de l'énerver, puis lui, il essayait de faire pareil avec sa Mustang, mais il était pas habitué de conduire ça pantoute, là. C'était pas un gars de propulsion pantoute, c'était un gars de traction. Là. Fait que là, quand il a demandé, il s'est tanné, puis il a décidé qu'il pesait sur le gaz, pour de vrai. Mais dans la bretelle d'autoroute était tellement serrée que là, il a décidé qu'il donnait un bon coup de gaz, il va être en deuxième, là. Il a rentré de reculons sur l'autoroute à travers le trafic. Et ça, c'était comique. Ça aurait pu mal finir. Ça. Les autos passaient d'un bord puis de l'autre de même. Il a fini qu'il a reculé ça. Juste le coin de l'auto, sur le coin du mur, entre les deux voies. Il a reviré ça puis il est reparti en avant de nous autres. Hey. T'as dit, on est arrêté quand on était allé manger, là. Il a débarqué de l'auto, il était à manchette même. Hey, il a été chanceux, il a pas brisé à rien après sa voiture, ben à part un petit peu de bodet en arrière, là, un coin de pare-choc. Là, il aurait pu tout défaire de là. Fait que ça, c'est, ouais, c'était un moment assez drôle, c'est que l'auto.
Okay. Ton auto de rêve?
Écoute, mon auto de rêve.
Attends que le budget...
Ouais, mon auto de rêve... Écoute, il y a des voitures que j'aime beaucoup, que je sais que ça serait pas adéquat pantoute d'acheter, mais tu sais, comme une Ferrari Testarossa, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Okay. Parce que c'est une voiture que je regardais quand j'étais jeune. Ouais, que j'avais...
C'est mythique, là.
Ouais, c'est ça, c'est mythique. Puis j'ai toujours trouvé ça beau. Même si présentement, d'après moi, t'achètes ça. Puis, tu sais, moi, mon trip, c'est déroulé. Fait ouais. que.
Ça confirme que c'est pas un bon trip. J'ai essayé qu'une journée, ça coûtait cher.
Ça, j'ai déjà entendu des balles qui avaient descendu dans le fond d'un moteur de Testarossa. Quelque chose comme ça.
Ouais, fait que, ça a fini en la poussant, je pense.
Ça a fini en la poussant à la gang comme un crew mécanique. T'sais, puis à ça, c'est sans compter le pare-brise. Simon qui coûtait le prix d'un char.
Ouais, mais c'est parce que t'avais peut-être fait le même chiffre que t'avais fait quand tu voulais me donner une règle civique.
Ça, c'était bon, hein. Maintenant, on arrive, puis Simon, on embarque sur l'autoroute, t'as qu'un civique. Oui! Puis là, je la pine comme quand on était jeune. Ça, c'était malade quand on était jeune. Là, je la rentre dedans. Ben j'ai fait style un 3-1. T'aurais dû voir ça. Oh, tous les autres chars auraient explosé. Pas lui. C'était quoi? C'était un petit père, genre.
Je sais plus c'était quoi comme auto, mais. C'était bon, hein. À t'offrir.
Puis ça arrive tout le temps dans ces moments-là. Quand t'es tout seul, t'assumes, c'est t'as l'air d'un king, tout est parfait. Quand t'es avec du monde, à ne pas essayer la maison, à ne pas reproduire, ok? J'ai jamais battu aucun de mes chars.
Pour moi, tu voulais m'impressionner ce matin-là.
Le plus beau char, selon toi, puis le plus laid.
Écoute, le plus beau char, encore une fois, une Testarossa, je trouve ça très, très beau, mais j'aime beaucoup, beaucoup les voitures des années 60. Mon Bel Air, là, avec les espèces de formes des ailes en arrière, c'est des voitures que j'aime beaucoup. Je suis pas un gars d'exotique tant que ça en termes de voitures, mais j'aime une voiture que j'ai toujours aimée, Lotus Esprit.
Oui. Esprit.
Non, oh, Esprit. Oui. Lotus oui. Esprit.
Pretty Woman.
Ouais, c'est ça, c'est des genres de voitures que j'aime beaucoup.
Plutôt carré, tout ce que t'aimes, on dirait. Tu sais,
ouais. 80, mettons.
Puis écoute, des voitures neuves, vraiment des autos que je trippe, il n'y en a pas tant que ça, on dirait.
C'est un point quand même pas mal.
C'est le temps de dire, ah, il y a des Audi.
Ouais, ben oui, c'est sûr. Mais écoute, il y a des voitures que j'adore, mais je te dirais que je suis un gars quand même old school, pas mal dans qu'est-ce que j'aime aussi. Là.
OK. La personne que tu connais qui chauffe le plus mal?
Et ça...
Ben là, moi?
Ouais.
Quand
il essaie de m'impressionner puis qu'il manque son chiffre, mais vite de même, écoute, ça...
Non, c'est pas grave.
Il y a des chauffeurs de taxi, des fois, que je suis pas capable d'embarquer avec parce qu'ils conduisent tellement mal. Coup de volant, gaz, break... Mais écoute, à part de ça, non, ça me vient
pas.
Non,
on l'accepte pas, c'est bon. On l'a okay. ton pire move en voiture, ça peut être sur piste ou sur route normale.
Mon pire move en auto, écoute, encore là, je peux vous en compter quand même quelques-uns, là, mais à un moment donné, j'avais acheté une Jetta. quand j'étais à l'école en mécanique, justement, parce que je me tenais avec des gars de Sainte-Brigitte de Laval. Puis ces gars-là, c'était des gars de boxe.
C'était pas recommandable dans ce temps-là, Sainte-Brigitte, hein?
Non, c'est ça. Ça, exactement. Mais tu sais, mes chums, c'était tous des gars de boxe. Fait que là, faut que tu t'achètes un Jetta, faut que tu essayes ça. Puis moi, je roulais des Honda ou des Américaines dans ces années-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai acheté une Jetta, une petite Jetta 1.8, 8 valves, 89-10 peut-être, là, comme voiture d'hiver. Puis effectivement, c'est une voiture qui a un essieu en arrière. Fait que ça a du steering. Tu sais, tu tournes les roues, puis ça tourne, puis des fois, le devant veut passer le derrière, puis je me suis vraiment amusé avec cette voiture-là, mais je me suis peut-être trop amusé qu'à un moment donné, ça a fini avec deux tonneaux, mais j'ai retombé sur mes roues,
puis t'as continué comme
je me suis rendu chez nous.
c'était
un move bizarre un peu pareil que j'ai fait, puis écoute, c'est parce que je revenais en plus de l'école de Québec, puis mon accident a comme eu lieu dans mon coin. Puis tous mes livres d'école étaient dans l'auto. Puis fait que ça a fini que j'ai fait deux tonneaux, mais tout mon stock a tombé dans la rue.
Ah.
Mais moi, j'étais comme un peu pressé. Fait que j'ai décidé que je restais pas là, puis que je retournais chez nous. Fait que je me rappelle toujours de la face de mon père. T'sais, ça fait comme une semaine que j'étais parti à l'école. Je revenais le vendredi après-midi, vendredi soir. Fait que là, je reviens, mon père est en train de pelleter à la galerie. Il me voit rentrer, le toit écrasé, le pare-brise à manger de même. C'est l'auto. Fait que là, tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vois, j'ai une petite bad luck tantôt. Hein. Ça a pris 10 minutes après les flics sont arrivés dans le cours chez nous.
Ah ouais?
Ben oui, parce que
marqué tous livres
d'école avec ton nom.
Mes livres d'école avec mon nom dessus. Mais j'avais pas tué personne, j'avais pas touché à rien, j'avais pas rien brisé. Fait qu'ils pouvaient pas m'accuser de grand-chose. Mais à part de conduite dangereuse, parce qu'il y avait vu des traces bien, bien longtemps avant que ça arrive, parce que ça faisait un petit bout, je suis en dérapage avec l'auto. Mais je m'en avais quand même bien sorti. Je m'en avais sorti avec une inspection mécanique sur l'auto.
Oh, c'est bon.
Puis il avait fini en une course de rallycross que j'avais faite avec. Puis, ouais, exactement. Fait que, ouais, ça, c'était pas ma meilleure shot, disons, en voiture. Là.
Très bon. Ben, nous autres, c'est là-dessus que ça se termine, Simon.
Bon, il y a un gros merci.
Merci pour ta visite. C'était bien cool.
Ben, c'était fun. Ben oui.
Bonne chance pour la prochaine saison en NASCAR.
Pas besoin de chance, c'est trop de talent.
Oh, voilà, arrêtez.
Ça se finit là-dessus.
Trace de Break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération.
Que vous soyez dans un stade, un petit bar de région, dans un party de cuisine, sur une terrasse, aux célébrations de la fierté, que vous soyez à votre comptoir à soupe faux préféré ou au resto indien du coin, dans un bar à nouilles, un bar sportif ou un bar à salsa, on lève notre Molson en votre nom. Export, Ultra, Excel, Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool.